Vous allez entendre un message de William Branham, prêché le matin du 23 août 1964 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Questions et réponses ».
Maturing of the body. See? Now, notice. Now,
premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis, vous entendrez la traduction française de ce message.
Now, the next thing is to happen is the Jewish, the Gentile elected bride to be caught up with the rest of the Gentile elected bride that's been down through the ages, be caught up in the presence of Christ in the heavens. The dead raises, the ones that's alive and remain is changed, and they're caught up together in the air to meet the Lord. Then, because after the wedding ceremony in glory, Jesus, after that, has caught up into the skies, Jesus returns on to the earth and makes himself known to his people. For the time of purification, because she has rejected Christ the Word for her purification, then she has to suffer for her deeds. But the bride who has become the Word, a complete atonement was made of Christ, because he...
Restons debout un instant alors que nous inclinons nos têtes pour prier. Bienveillant Père Céleste, nous te remercions ce matin du fond du cœur, parce que tu peux et que tu es désireux d'exaucer nos prières. Et nous te prions de recevoir notre action de grâce pour ce que tu as déjà fait pour nous. Nous attendons grandement ton aide ce matin, et lorsqu'en sortant, nous franchirons les portes de ce bâtiment, puissions-nous être une personne différente que lorsque nous sommes entrés. Puisse le Saint-Esprit former notre caractère ce matin et faire de nous des sujets de ton royaume. Car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je regrette d'être un peu en retard ce matin. Mais j'avais un certain nombre de choses à faire, ainsi que beaucoup de malades à visiter et d'autres vues à voir avant d'entrer ici. Nous sommes heureux d'être ici ce matin et de vous voir tous. Je désire remercier les personnes qui nous ont envoyé ces belles choses, le présent pour mon épouse, ainsi que le frère qui m'a envoyé son fusil pour la chasse aux cerfs. Que le Seigneur le bénisse. Il a dit qu'il devenait vieux et qu'il ne voulait plus s'en servir, et il voulait que ce soit moi qui l'ai. Je suis vraiment très reconnaissant. Aussi longtemps que je vivrai, frère, et que mon physique me le permettra, je l'aurai. Je ne le mettrai jamais dans ma main sans penser à vous et prier pour vous. Maintenant nous sommes, tellement de choses doivent être faites aujourd'hui. Aussi je pensais que peut-être, pendant que j'étais ici, j'aurais quelques questions qui me permettraient de savoir ce qu'il y a sur le cœur de mon Église, des différentes personnes. Je l'ai vraiment pensé. J'ai reçu suffisamment de questions pour m'occuper jusqu'au commencement du millénium. Je ne savais pas qu'il pouvait y en avoir autant. J'en ai ici une centaine et 100 ou davantage sont arrivés ce matin. Ainsi, je pense que je ne pourrai jamais répondre comme il se doit parce que... Et ce sont de bonnes questions, de très bonnes questions. Maintenant, certaines d'entre elles ne pouvaient pas être lues directement au public, vous savez. Ainsi, j'aurais demandé... Si je ne peux pas dire indirectement, ce sont des problèmes de famille, et vous comprenez. J'ai demandé d'avoir un entretien personnel avec le mari et la femme, afin que je puisse leur parler de ces choses en privé. Ce ne sont pas de mauvaises choses, mais ce sont des choses qui doivent être réglées en famille. Des questions de nature humaine étant produites par la course dans laquelle nous, le temps dans lequel nous vivons. Et ce sont des problèmes se rapportant à la famille humaine. Elles doivent être résolues. Ainsi, je ferai tout pour y répondre le mieux possible. Parfois, cela prend beaucoup de temps pour répondre aux questions. Et je ne veux en manquer aucune. et j'examinerai chacune du mieux que je peux. Je les ai simplement tassées dans un sac ici pour y répondre. J'ai inscrit un passage de l'Écriture si c'était nécessaire, et je les ai remises à leur place. Hier, j'ai passé toute la journée là-dessus, et une grande partie de la nuit dernière, et ce matin depuis peu après le lever du jour. Et j'en ai reçu environ encore deux fois plus ce matin. Ainsi, je pense que ce que nous allons faire, Dieu voulant, c'est que je répondrai au plus grand nombre possible d'entre elles jusqu'aux alentours de midi. Puis je vous renverrai et nous reviendrons ce soir et j'essaierai de pouvoir les finir ce soir si possible. Et peut-être que je n'aurai pas besoin de vous punir en vous gardant si longtemps dans une seule réunion. Je pense que cela vous donnera le temps de sortir, de vous reposer et de récupérer un peu, voire de faire un petit somme et de revenir si vous le pouvez. Si cela ne vous est pas possible, eh bien je suppose que frère Fred Sussman est en train d'enregistrer ici. Est-ce enregistré? Bon, c'est bien. Oui. Ils sont dans le local en train d'enregistrer cette bande peut-être. Si c'est en ordre, vous pouvez avoir la bande. On la gardera, elle s'appellera questions et réponses. Parce qu'il y a des questions très difficiles là-dedans, et beaucoup d'entre elles concernent les doctrines de l'Église. Maintenant, j'aimerais que les gens sachent que c'est parfois difficile de répondre à ces questions. Il faut beaucoup de grâce pour se tenir ici, si vous saviez l'amour que j'ai pour vous. Je ne pourrais l'exprimer. Je ne l'exprime même pas à mes enfants. Je n'exprime même pas mon amour profond à mon épouse, comme je devrais. Parce que je suis capricieux et que je continue simplement à aller en ligne droite. Il n'y a qu'une personne à qui j'exprime tout mon amour, c'est au Dieu Tout-Puissant. Et je l'aime avant tout. J'aime d'autres personnes, mais je ne veux pas gâter l'amour que j'ai pour lui, que cela vienne en premier. C'est pourquoi quand je réponds à vos questions, j'y réponds avec de l'amour dans mon cœur pour vous. Mais en ayant une chose continuellement devant moi, c'est Jésus-Christ, voyez-vous, et la manière dont lui y répondrait. Parfois, il se peut que je doive répondre, que cela fasse mal, que cela écorche, mais ce n'est pas intentionnel. Je réponds à ceci avec un but, comme je l'ai dit, Christ devant moi. Et je dois me souvenir que c'est à lui que je dois en rendre compte. Ainsi, mon premier amour est pour lui, et mon second amour est pour vous, son Église, qu'il a rachetée par son propre sang. En fait, il vous aime davantage que lui-même, parce qu'il s'est donné lui-même pour vous. Vous êtes le rachat de son sang, et je m'en occupe avec toute la précaution et la sincérité possible. Mais alors, en agissant ainsi, vous pensez parfois, c'était une remarque très dure, c'est si brutal et direct. Je fais cela en ayant le Seigneur dans mon esprit, voyez-vous, afin d'essayer de faire en sorte que tout le monde voit qu'il doit en être ainsi. Ce n'est pas quelque chose destiné à blesser, mais c'est simplement afin d'être sûr que les gens comprennent, et j'espère que chacun le reçoit ainsi. Et maintenant, à travers cela, nous découvrons ce qui occupe nos pensées. Alors que je vous vois tous réunis ce matin, cet endroit est bondé, et je pense que nous avons aussi une partie des gens dans une autre église. Une église sœur s'est procurée une radio ou une sorte de système de retransmission téléphonique. Le surplus des gens se trouve à ma connaissance dans cette église ce matin. Frère, un autre frère à l'église qui accueille le surplus et qui est en liaison avec cette église-ci. Ainsi, vous n'avez pas à vous marcher sur les pieds et à vous tenir contre les parois. Ce soir, Dieu voulant, nous commencerons tôt. J'aimerais demander au pasteur et au conseil s'ils commençons assez tôt ce soir, parce que certaines des personnes qui sont ici ont une très longue route à faire. Et j'aimerais commencer au moins une heure plus tôt ce soir, si possible, et terminer cela. Donc, aussitôt que vous avez terminé de manger, après 6 heures, j'aimerais commencer. Voyez-vous, vous commencez généralement à 7h30, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi me trouver sur l'estrade vers les 7h, voyez-vous, et nous terminerons vers les 8h ou 8h30, quelque chose comme cela, et cela vous donnera le temps de rentrer chez vous et d'être en forme pour aller travailler demain, s'il y a un lendemain. Maintenant, que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse abondamment. Et aussitôt que ce service est terminé, j'irai chercher les autres questions et j'essaierai d'y répondre. J'écris simplement sur elles quelques notes afin de pouvoir... J'oublie un peu les références bibliques. Alors, quand je suis dans ma chambre en train d'étudier, j'inscris cela sur un morceau de papier, car j'aime m'y référer par la suite. C'est pourquoi, si c'est dans une encyclopédie, je dois l'apprendre, ou si c'est le sens d'un mot ou d'un nom, je l'ai inscrit devant moi. Je n'ai ainsi pas besoin d'amener une quantité de livres, etc., car j'ai tout là. Maintenant, si la réponse ne vous satisfait pas, eh bien, peut-être que je me suis trompé. Voyez-vous, j'ai peut-être fait une faute, parce que ces réponses sont simplement au mieux de ma compréhension. Et je désire que les pasteurs qui feront peut-être entendre ces questions à leur assemblée, ou si les gens d'une certaine église les écoutent, je ne veux pas que ceci si cela porte atteinte à votre enseignement et à votre assemblée, je désire que celles-ci comprennent clairement que c'est simplement ce que nous enseignons ici, au tabernacle. Je n'essaie pas de forcer n'importe quel autre groupe à accepter cela. Je veux être un chrétien dans mon cœur et enseigner ce que je crois. Je m'en tiens à ma conviction. Si j'établis un compromis vis-à-vis d'elle, je suis un traître vis-à-vis de Christ et un hypocrite vis-à-vis de vous. Et je dois rester fidèle à ce que je crois être la vérité. Or, tout autre homme a le droit de faire la même chose. Dieu est le juge de nous tous. Maintenant, juste avant de commencer, j'ai pensé mentionner un historien remarquable qui s'appelle Paul Boyd. Beaucoup parmi vous le connaissent. Il vient d'ici au tabernacle. Il vient de rentrer de Jérusalem et s'est rendu à l'exposition mondiale. Il est très fort pour enseigner les prophéties et c'est un des meilleurs historiens. C'est un frère qui était mennonite et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est ainsi devenu un de mes amis les plus intimes. Il a toujours prêté garde et pris note de tout ce que je disais, se rapportant à la prophétie pour voir si cela arriverait. Et maintenant, comme il est de nouveau aux États-Unis, il m'écrit, et c'est sur le panneau d'affichage, je pense, ce matin. Il écrit sur un commentaire se rapportant à des prophéties de première importance qu'il avait mis dans un des journaux. Et je crois qu'il mentionne la cinquième chose que j'avais vue il y a 33 ans concernant les réussites, ou plutôt les progrès de la science. Et si vous vous souvenez, vous l'avez inscrit, je l'ai dans mes livres. J'inscris tout ce que le Seigneur me dit d'important, ou les choses que je peux dire aux gens. J'ai pensé ce matin, avant de commencer ceci, ce ne sont pas des sermons, mais nous sommes ici, ensemble, afin d'apprendre l'un de l'autre, ce que nous avons sur le cœur. Démêlons ces choses maintenant, que nous avons traitées des âges de l'Église, etc. Je pense qu'il est bon de s'arrêter pour une réunion ou deux et de faire un sondage pour voir ce qu'il y a sur le cœur des gens, et ensuite repartir depuis là, voyez-vous, puis avoir de nouveau une série de réunions. Si le Seigneur le veut, je désire avant longtemps avoir ici au tabernacle une longue série de réunions. Vous savez ce que je veux dire, des réunions sur différents sujets, et continuer ainsi jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher ou que j'aille le rencontrer, l'un ou l'autre, voyez-vous. Paul Boyd a écrit ici au sujet de ces sept choses qui devaient arriver et que j'ai vues en 1933. Il observe le plus attentivement possible au point de vue technique, parce que c'est un historien. Il surveille exactement ce que vous dites. Il a vu ces choses qui avaient été annoncées il y a de nombreuses années arriver, comme ce que serait la fin de Mussolini et d'Hitler, que le communisme récolterait la foi, le fascisme et tous les autres, que la ligne Siegfried serait construite et que les Américains rencontreraient là une défaite, ce qu'ils n'ont jamais voulu admettre, jusqu'à il y a environ 2 ans. Ils ont les photographies allemandes du siège qui a eu lieu là. Et ils subirent vraiment une défaite. Ils ont perdu presque toute leur armée à cet endroit. Et puis toutes ces choses qui arrivèrent. Il lui dit également, il arrivera qu'à la fin des temps, les automobiles seront en forme d'œuf, qu'elles ressembleront davantage à un œuf. Et je vis une famille américaine dans une voiture qui roulait sur une grande route. Ils étaient assis l'un en face de l'autre autour d'une table sur laquelle ils semblaient jouer aux dames ou aux cartes. Il n'y avait pas de volant dans la voiture, celle-ci étant contrôlée par un système quelconque ne nécessitant pas de volant. Combien d'étudiants se souviennent lorsque j'ai prophétisé cela, voyez-vous? Maintenant, à l'exposition mondiale, ils ont déjà la voiture sur le marché. Voici-le, elle est vendue maintenant. Une certaine grande compagnie en a acheté beaucoup. Et voici cette voiture. Paul Boyd s'est souvenu de la prophétie. Il a regardé dans son livre pour voir ce que j'avais dit et a pris la photo là-bas. Et la voilà exactement. La voilà exactement en forme d'œuf, avec 2 sièges regardant dans cette direction et 2 sièges regardant dans cette autre direction. Et il y a une table au milieu pour jouer aux cartes, exactement. La parole du Seigneur est tout à fait exacte. C'était en 1933. Cela ferait combien? 32 ans, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant en 1964. Oui, 31 ans. Il y a 31 ans, le Seigneur m'a dit cela, et le voici. La compagnie qui les a déjà commandés est ici, et des compagnies de transport sont en train de construire des camions selon le même procédé. Ils peuvent le diriger directement de leurs quartiers généraux. Il n'est même plus nécessaire qu'un conducteur soit dedans. Tout cela est déjà construit, et voici ces voitures. C'est maintenant sur le panneau d'affichage au fond, et vous pouvez lire la prophétie et voir combien notre Dieu est précis et combien sa parole. Il a dit, les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Regardez, il y a de cela 33 ans. Vous savez à quoi ressemblait une voiture de 1931, par exemple. Elle aurait l'air d'une relique. Il était dit, elle ressemblera à un œuf. Elle deviendra comme un œuf. Bien sûr, il n'y a personne ici parmi nous, je pense, ou qui est en vie aujourd'hui, qui m'a entendu dire cela. C'est, vous m'avez entendu le dire à travers les âges, mais oui, voici une dame qui est assise là. Oh, Madame Wilson, je ne vous avais pas vue. Vous vous souvenez lorsque cela est arrivé? C'est à ce moment-là qu'elle fut guérie, alors qu'elle se mourait de la tuberculose. Son mari et sa fille sont venus me chercher pour que j'aille prier pour elle. Elle avait de telles hémorragies que le coin de la pièce était rempli de tailles d'oreiller sur lesquelles elle avait saigné. Le docteur avait dit, il n'y a aucun moyen pour qu'elle puisse continuer à vivre. Et même, elle essayait de me dire quelque chose avant de mourir. Elle le sang giclait sur les couvertures et les draps quand elle essayait de tousser. Je l'ai retirée de ce lit, je l'ai amenée ici à une rivière froide et je l'ai baptisée dans l'eau glacée au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela fait 33 ans et la voici parmi nous aujourd'hui, toujours en vie, alors que beaucoup de ses grands-enfants en bonne santé s'en sont allés. Vous y êtes, grâce étonnante, combien le sang est tout, qui sauva un misérable comme moi. Ceci montre simplement avec quelle précision cela arrive quand c'est ainsi, dit le Seigneur. Oui, c'est juste, sœur. Oui, monsieur, les femmes. J'ai dit que les femmes deviendraient si immorales dans les derniers jours. Or, vous savez comment elles s'habillaient il y a 30 ans. J'ai dit qu'elles deviendraient si immorales que finalement elles marcheraient dans la rue vêtues uniquement de leurs sous-vêtements. Et j'ajoutais, il arrivera alors qu'elles deviendront si ignobles qu'elles ne porteront plus qu'une sorte de feuille de figuier. Je l'ai vu. Elles l'ont. Elles portent cela. La moralité des femmes deviendrait si basse et dégradée. Nous ne pouvons pas aller plus bas maintenant. Vous ne pouvez pas faire pire. Elle est à la fin. Voyez-vous, elles ne seront jamais complètement nues. Non, elles, j'ai prêché à des dizaines de milliers de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, qui ne portaient pas les moindres habits. Mais ils ne savent pas qu'ils sont nus. Voyez-vous, ils ne le savent pas. Et la manière dont agissent les femmes aujourd'hui, je parlais d'une jeune femme l'autre jour à des amis, alors que nous étions tout en haut dans les montagnes. Je venais de prier pour son bébé, qui était atteint d'épilepsie, et le bébé fut guéri. Il s'agit d'une pauvre petite famille, habitant tout en haut d'une vallée, une maison de 2 pièces environ, entourée d'une petite plantation de tabac. Ils ont 7 ou 8 enfants. Cette femme travaille. Oh là là! Elle coupe du bois avec une grosse hache, elle laboure son jardin, elle fait toutes sortes de conserves. Je regardais cette pauvre femme qui portait la même robe depuis 1 année ou 2, toute déchirée. J'ai essayé de trouver des robes à Meda pour les lui apporter la semaine prochaine. Alors que nous étions là, quelques frères et moi, nous avons remarqué cette dame en train de nourrir son bébé. Elle a simplement sorti son sein de dessous sa robe et elle a commencé à nourrir le bébé. Pendant 1 minute, je fus comme stupéfait, mais c'est ainsi que ma mère m'a nourri. C'est exact. J'ai davantage de respect pour une femme comme cela que pour certaines de ces femmes qui mettent une sorte de petite courroie sous elles pour se pousser en avant. Cela ne ressemble même pas à un être humain. Elles ont un dessin faisant cela qui est sexy et impie. Une femme porte tous les vêtements possibles et essaie de se faire paraître comme quelque chose qu'elle n'est pas. Or les femmes ne sont en fait pas ainsi. C'est une sorte de tendance d'Hollywood. Et l'esprit du diable vient sur ces femmes pour leur faire essayer d'attirer l'attention des hommes à travers le sexe. Les seins d'une femme lui furent donnés pour nourrir un bébé. Exactement. Cette femme avait raison par rapport à sa fonction primitive. J'ai davantage de respect pour cela, pour une femme comme cela, parce qu'elle, c'est ainsi que sa mère l'a élevée. C'est ainsi, ils n'y font pas attention. Le bébé a pris le sein comme sur le tableau de la Madone, que vous pouvez voir. Et si les gens pouvaient seulement voir la chose ainsi, ce serait différent. Mais lorsque vous sortez, vous portez peut-être une sorte de blouse et vous poussez en avant avec des courroies, différentes choses qui donnent une apparence impie et fait que des hommes, réalisez-vous que c'est un esprit du diable qui est sur vous? Oh oui, ainsi sœur, vous ne voulez pas faire cela. Ne faites pas cela. C'est l'invention d'Hollywood et un piège du diable. Quand vous faites cela, vous faites que des hommes aient des pensées fausses à votre sujet. Et à ce moment-là, vous êtes coupable de commettre adultère avec cet homme parce que vous vous êtes présenté ainsi à lui. Vous n'y pouvez rien la façon dont vous êtes faite. mais restez simplement tel que Dieu vous a fait. Voyez-vous, n'essayez pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Restez simplement un être humain. N'est-ce pas terrible? Eh bien, peut-être que cela répond aussi aux questions de quelqu'un. Notre Père, nous te remercions aujourd'hui pour Jésus-Christ et pour la justesse de la parole. En te voyant accomplir ces paroles si parfaitement, cela me rend toujours plus déterminé de rester avec la vérité et chaque mot de cette vérité. Ainsi, je te prie, Père, de nous bénir ce matin, ainsi que ces aimables personnes, sachant que cette bande ira dans de nombreux endroits et que là, des gens entendront la remarque que je viens de faire. Puis-ils comprendre que ce n'était pas prémédité. Tu connais mon cœur. Cela m'est simplement venu à l'esprit, et je crois que tu voulais que je le dise. Je l'ai dit, et c'est maintenant terminé. Ce sont exactement mes convictions et ce que tu voulais, je crois, que je dise. Que chaque femme qui entend cela, dans ce pays et autour du monde, devienne honteuse d'elle-même en voyant ce qui est arrivé, et s'habille alors comme une dame, afin de n'être pas coupable d'adultère. Que cette belle et mignonne créature que tu as donnée, une partie d'un homme, soit ainsi pour attirer son attention de nouveau à cela, afin que les deux deviennent un, parce qu'elle est sortie de l'homme. Je te prie, ô Dieu, que la femme réalise que sa beauté et ce qu'elle est réservée uniquement à son propre mari. Accorde-le, Père. Nous te demandons de nous aider maintenant. Alors que nous essayons d'expliquer ces questions, nous sommes inaptes à faire ces choses, mais fais venir ton glorieux Saint-Esprit, Seigneur, qui, lui, est tout ce qu'il nous faut. Et puisse-t-il répondre à la question dans de nombreux cœurs. Nous te remercions de ce que tu nous as donné, les âges de l'Église, les sceaux et les « Oh, combien tu as traité avec nous de façon grandiose, Seigneur !» Parce que nous voyons que la fin des temps est proche. Maintenant, j'ai pensé que ce serait favorable à ton royaume si je regardais où en étaient les gens. Souvent, pendant le discernement, j'ai vu tellement de choses, mais je ne peux me concentrer sur chacune d'elles. C'est pourquoi j'ai pensé que je les laisserais écrire ce qu'ils ont sur le cœur. Je peux ensuite exprimer leurs pensées à partir de ce qu'ils ont écrit sur un morceau de papier. Et alors, donne-nous la réponse correcte. Nous attendons tous, Seigneur. Viens en notre présence, Seigneur. Parcours les couloirs et traite avec chacun selon ta volonté. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Terry, est-ce que ça arrive encore là-bas? J'ai touché. Est-ce que cela coupe quelque chose? Cela ne gêne pas. J'ai touché cela avec ma main. Je ne savais pas. Maintenant, avant de commencer, je répète aux pasteurs et aux personnes se trouvant dans différentes parties du pays qui écoutent la bande, si la bande est bonne, que ce sont des questions sur le cœur de gens qui appartiennent à ce tabernacle, où nous n'avons pas de dénomination, mais que des liens fraternels les uns avec les autres. Et j'espère que cela éclaircira nos pensées et que nous saurons ainsi que faire et comment vivre mieux une fois notre question répondue. Je sais que simplement les lisant, ce fut une bénédiction pour moi. Maintenant, je les ai simplement pilés ici et je ferai attention pour qu'à environ midi, moins 5, je puisse vous renvoyer. Et alors, revenez ce soir à 6h30. La première question que j'ai, je crois que ce sont 5 questions qui se suivent, écrites à la machine sur un morceau de papier jaune. Que signifie ceci? Matthieu 24, 19, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. C'est étrange, mais sans savoir, j'allais dire ceci au sujet de la femme, et voici que c'est la première question. Maintenant, Matthieu 24, 19. Trois questions avaient été posées à Jésus. Les voici. Quand arrivera le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? Et quel sera le signe de la venue de la fin du monde? Et on lui posa trois questions différentes. Et il répond de trois façons différentes. Il répond à chaque question. Quand sera-ce quand il ne restera pas pierre sur pierre? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Et il répond de trois façons différentes. Il leur dit quand arrivera le temps où il ne restera pas pierre sur pierre, et quel sera le signe de son avènement, et encore celui de la fin du monde. Et souvent, si vous ne faites pas très attention à la manière dont il répond, vous allez tout mélanger et faire tout arriver en une fois. Et alors, vous êtes complètement brouillé. Maintenant, je ne veux pas manquer d'égard vis-à-vis de nos frères adventistes qui prennent ceci littéralement et le placent dans le futur. Je ne vais pas entrer dans le sujet du septième jour qui voudrait que lorsqu'il est dit « Priez aussi pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, il garde toujours le sabbat ». Je ne vais pas jeter la pierre à ses frères, ce qui ne serait pas chrétien, mais je vais simplement rectifier cela. Voyez-vous, comment le monde chrétien en entier serait-il rassemblé à l'intérieur d'un mur, et aussi, Les murs ne sont pas ouverts et fermés comme ils l'étaient ailleurs. Alors, voyez-vous, quelle différence cela aurait-il fait que ce soit en hiver ou en été aux gens qui vivaient dans une zone tropicale? Voyez-vous, c'était uniquement pour Israël. C'est durant le temps où il ne restera pas pierre sur pierre que s'applique le passage malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Parce que ce serait difficile pour une femme enceinte de courir, et pour celles qui allaitent leur bébé de les porter, parce qu'ils durent sortir de Jérusalem et partir dans les montagnes de Judée. Maintenant, je pourrais rester toute la matinée sur cette unique chose, afin de la rendre claire, mais je vais simplement essayer de toucher les points principaux jusqu'à ce que les gens comprennent, et ensuite je passerai à la question suivante. Jésus leur avait dit de « Lorsque vous verrez Jérusalem entourée d'armées, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas dans la ville pour prendre son manteau, qu'il n'aille pas chercher quoi que ce soit chez lui, ne retournez pas du tout dans la ville, mais fuyez en Judée. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. » Et tout cela est arrivé à l'époque où Titus, le général romain, assiégea Jérusalem et brûla la ville, et n'eut que, elle tua les gens jusqu'à ce que leur sang sorte par les portes et remplisse les rues. Il l'assiégea, je ne sais pas combien de temps après cette arrivée, où il prit ses armées et vint camper tout autour de la ville, si bien que les gens, les femmes allaient même jusqu'à bouillir leurs propres enfants et les manger, ainsi que l'écorce des arbres et l'herbe qu'il y avait. C'était pour avoir rejeté la parole. C'est ce qui en fut la cause. Or, ceux qui avaient reçu la parole, comme l'écrit Joseph, le grand historien, ils appelaient des cannibales, car, dit-il, ils mangeaient le corps d'un homme appelé Jésus de Nazareth, que Pilate avait crucifié, et sont venus pendant la nuit, et ont volé son corps, et ces gens sont allés le couper en morceaux, et l'ont mangé. Ils prenaient la communion, vous voyez, ils ne savaient pas. C'était juste une histoire qu'on racontait, comme celle qu'ils ont aujourd'hui à propos de nous et du reste des chrétiens. Voyez-vous, ils disent ces choses, mais maintenant ces gens qui étaient, la raison pour laquelle il dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver », c'est que la Judée était recouverte de neige. Voyez-vous, à propos de Noël, alors comment Jésus est-il né là-bas, sur ces collines recouvertes de neige? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voyez-vous, parce que le jour du sabbat, les portes étaient fermées. Elles auraient été prises au piège. Si Titus était arrivé là, un vendredi après-midi, ils auraient été assiégés le sabbat parce que les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées le sabbat et on ne les ouvrait pas. Rien n'entrait ni ne sortait de la ville le jour du sabbat. Et maintenant, vous voyez ce qui est arrivé? Il dit alors, malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Voyez-vous, parce que lorsqu'il faut fuir et courir, et selon l'histoire, il n'y eut pas une seule personne qui croyait dans Jésus et qui croyait la parole, qui n'attendait pas que cela arrive. Et ils ont échappé. Ils sont sortis de Jérusalem et sont allés en Judée. Ils ont fui pour sauver leur vie et pas l'un d'entre eux, pas s'ils avaient été avertis par leur berger et qu'ils s'attendaient à ce que cette heure vienne. Lorsqu'ils entendirent que Titus arrivait, ils s'enfuirent en courant pour sauver leur vie et sortir de la ville. Maintenant, la prochaine question suit. Matthieu 24:24, « Car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. Comment les reconnaîtrons-nous ? » Il s'élèvera, maintenant avec cela vous arrivez dans un autre âge, voyez-vous, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Un faux Christ est un faux loin, parce que Christ est loin. Combien savent que le Christ signifie « loin » Il y aura de faux loin et ils s'appelleront prophètes. Mais comment les reconnaîtrez-vous? Par la parole. C'est ainsi que vous saurez s'ils sont vrais. C'est par la parole. Comment les reconnaîtrons-nous? Ce sera par la parole. S'ils disent qu'ils ont la parole et qu'ensuite ils nient cette parole, alors cela ne vaut rien. Peu importe ce qu'ils font, ils peuvent guérir des malades, ils peuvent ouvrir les yeux des aveugles, mais s'ils nient la parole, restez éloignés. Peu importe ce que c'est, restez avec cette parole sans vous laisser arrêter, voyez-vous, parce que de nombreuses fois, j'ai vu des vaudous et toutes sortes de choses arriver sous le couvert de la guérison. Ici se trouvent ce matin frère Sidney Jackson et sœur Jackson, qui viennent d'Afrique du Sud. Il pourrait se lever et à ce sujet vous dire certaines des choses qui arrivent là-bas. Oh, assurément, des gens viennent vers des idoles et sont guéris. Vous voyez, et pourquoi cela? C'est simplement le docteur Aigre qui m'a repris cette fois-là parce que j'avais dit que le diable ne pouvait pas guérir. Il déclara, un homme qui se tient devant autant de gens que vous, et dont la théologie est si pauvre, qu'il dit que le diable ne peut pas guérir. Il ajouta, nous avons justement une femme dans notre voisinage, qui porte un tablier, et les gens viennent autour d'elle, et sont censés mettre de l'argent dans ce tablier. Puis elle frotte ses personnes, s'arrache des cheveux, leur retire du sang des veines, le met sur un cheveu, et le jette derrière elle. Et si elle est contrainte à regarder en arrière, la maladie revient dans les gens. Et dit-il, 30% d'entre eux se rétablissent. Et alors vous dites que le diable ne peut pas guérir? Et j'ai pensé, oh là là. Je lui ai écrit en lui disant, cher monsieur, il me paraît étrange qu'un doyen d'un collège luthérien base sa théologie sur une expérience plutôt que sur la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole dit que Satan ne peut chasser Satan. C'est réglé. Jésus l'a dit. Vous voyez, alors vous pouvez vous demander comment ces gens sont guéris à travers cela, à travers cette sorcière. C'est parce que les gens pensent qu'ils s'approchent de Dieu à travers cette sorcière. Et la guérison est basée sur la foi. Non pas sur le fait que vous soyez juste, que vous soyez bon, que vous gardiez les commandements ou autre chose, elle est basée uniquement sur la foi. Tout est possible à ceux qui croient. Voyez-vous, ce n'est pas basé sur le fait que vous soyez bon. J'ai vu des prostituées venir sur l'estrade, être instantanément guéries, et une femme pieuse traverser l'estrade et ne pas recevoir sa guérison. Assurément, c'est basé sur la foi, si tu peux croire, non pas sur la droiture. Regardez là-bas en France, ces gens qui vont au tombeau de cette femme, y entrent en chaise roulante et en ressortent sur leurs pieds, sur la base de rien d'autre que de la pure superstition. C'est du spiritisme que d'adorer une personne morte. Voyez-vous, et cependant ils sont guéris, parce qu'ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu. Maintenant, je ne dénigre pas les catholiques, je dénigre le système catholique, comme je le fais pour le système protestant, voyez-vous, et toutes ces choses. Maintenant, vous, prédicateurs, je sais que cela va faire mal, mais je réponds à des questions. Et je veux que vous compreniez que ce que je vous dis est la vérité, que je vous dis simplement la vérité qui vient de mon cœur, et ceci au mieux de ma connaissance, Christ se trouvant devant moi. Voyez-vous, ce sont tous des systèmes, et ces systèmes ont lié les gens. Ils vont se joindre aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes, aux catholiques, et ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu, alors qu'ils passent simplement à travers un système. Dieu honore parfois cela, et il leur enlève leur maladie à travers des idoles. Eh bien, chez les Hottentots d'Afrique, ils reçoivent la guérison avec des idoles, etc. Voyez-vous, mais ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu. Vous pensez qu'une non-catholique entre au couvent parce qu'elle veut être une mauvaise femme? Elle entre dans le couvent parce qu'elle veut être une femme bonne. Un homme ne va pas se joindre à l'église catholique simplement pour être un mauvais homme. Il y va pour être un homme bon. Vous dites, eh bien qu'est-ce? L'hindou en Inde n'adhère pas à l'hindouisme pour être une mauvaise personne. Je suis allé dans le temple des Jains, où j'ai été questionné par ce prêtre semblable à un pape, assis sur un gros oreiller, ses pieds croisés sur lui et tenant ses doigts de pied. Il avait une telle vue qu'il écrivait quelque chose de comparable au 23e psaume de l'Écriture avec son œil nu sur un morceau d'acier qui n'avait pas davantage que 5 mm. Or, c'est au-delà de tout raisonnement humain que d'écrire cela. Et il l'a gravé là-dessus avec son œil naturel. Et c'était un homme de 40 ans davantage, voyez-vous? Oh, bien sûr, vous restez simplement ici autour et vous n'entendez parler que de méthodistes, baptistes, presbytériens, mais vous devriez aller dans les champs de mission une fois. Vous y verriez des choses qui vous ouvrent les yeux. Voyez-vous, maintenant pensez que toutes ces sœurs qui sont assises là ne vont même pas cuire, ne vont pas manger, elles doivent manger tout ce qu'elles reçoivent. Elles se servent de leurs mains pour enlever les fourmis, etc., de la rue, parce qu'elles croient de la réincarnation. Elles pensent qu'elles mettraient peut-être le pied sur leurs parents. Ils ne marcheraient pas sur des fourmis. Elles ne tueraient pas des mouches ou autres. Ils stériliseraient même pas le couteau dont ils vont se servir pour opérer un doigt. Ils préfèrent laisser l'homme mourir parce qu'ils tueraient un germe qui pourrait être un de leurs parents qui revient. Voyez-vous, vous devenez toujours meilleur, finalement. Vous êtes un être humain, puis un meilleur être humain, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous deveniez un Dieu. Cela continue ainsi en faisant le tour et en s'améliorant toujours. Or, ils ne font pas cela pour être de mauvais gens. Ils le font avec sincérité. Mais vous voyez, telle voie paraît droite à un homme. Il n'y a qu'une chose, frères et sœurs, que je peux vous dire ce matin à propos de ces questions, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors vous croyez que Jésus-Christ est cette parole, et cette parole est faite chair maintenant, parmi nous, accomplissant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait dans cet âge. Amen. Très bien. Maintenant, c'est ainsi que vous les reconnaîtrez. Non par leur église, non par leur credo, non par leur signe, non par leur dénomination, non par une quelconque guérison ou quoi que ce soit, mais par la parole. Amen. Voyez-vous, Matthieu 24, 26, la suivante, parle de certaines chambres et du désert. Que cela signifie-t-il? Cela signifie qu'il y aura des antichrists, des anti-onctions, etc. Et que veut dire anti? Anti veut dire contre. Ce sera ces mêmes créatures contre la parole. Elles seront dans le désert et dans les chambres secrètes. Et les dit, n'y allez pas. Restez éloignés. Voyez-vous? Maintenant la quatrième question. Matthieu 24, 28, cette personne va en suivant, elle n'a pas signé. Oui, elle l'a fait. Je vous demande pardon. Je ne mentionnerai pas leur nom parce que ce n'est pas nécessaire. Voyez-vous, Matthieu 24, 28, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Qui est le cadavre et qui sont les aigles? Eh bien, c'est une bonne question. Je n'ai rien à redire là contre. Qu'est-ce que le cadavre? Le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Or, un aigle est considéré dans la Bible comme étant un prophète. Un prophète est un aigle. Dieu s'appelle lui-même un aigle, et nous sommes alors des aiglons, nous, les croyants. Vous voyez? Et qu'est-ce que le cadavre dont ils se nourrissent? La parole. Où que soit la parole, la véritable nature de l'oiseau se révélera. Voyez-vous? Un aigle qui veut de la viande fraîche doit avoir sa viande fraîche. Il n'est pas une buse, voyez-vous? Il est un aigle. Vous ne pouvez pas lui donner du machin dénominationnel. Il doit avoir de la nourriture d'aigle. Et c'est la viande la plus fraîche. Ce n'est pas ce que Moïse a fait, ce que quelqu'un d'autre a fait, ce que Sanquet, Finet, Knox, Calvin ont fait, mais c'est ce qui se fait maintenant. La viande qui est tuée pour ce jour. Et c'est la partie de Christ qui est morte afin que cette parole soit confirmée. C'est ce dont ils se nourrissent. Comprenez-vous cela? Voyez-vous, ce n'est pas ce que Noé a fait, ce que Moïse a fait, ce sont des exemples. Nous voyons et lisons ce qu'ils ont fait, mais c'est ce qu'il a promis de faire maintenant. Il était la parole à ce moment-là, c'était le cadavre pour ce temps-là. Le temps de Wesley était le cadavre pour ce jour-là. Le temps de Luther était le cadavre pour ce jour-là. Mais il ne retourne pas à cela, c'est déjà contaminé. Ce qui reste doit être brûlé, même de la communion. Ne le laissez pas pour la génération suivante. La Bible dit que lorsque vous prenez la communion, ce qu'il en reste, ne le laissez même pas jusqu'au matin. Brûlez-le! Ainsi, se référer à cela? Non, monsieur. Nous avons aujourd'hui de la nourriture fraîche. C'est la parole promise qui doit être rendue manifeste en cette heure. C'est là que se trouvent les aigles, là où est le cadavre. Nous pouvons rester longtemps là-dessus, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Cinquième question. L'époux sera-t-elle réunie à un endroit à l'enlèvement? Et sera-ce dans l'ouest? Non, elle n'a pas besoin d'être là. Oui, l'époux sera réuni à un endroit, c'est vrai. Mais pas avant la résurrection. Voyez-vous? Car nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, Ephésiens 2 Thessaloniciens chapitre 5, je crois, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui dorment sur toute la terre. Car la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pourquoi toute l'épouse sera ensemble quand elle ira rencontrer le Seigneur. Voyez-vous, elle sera ensemble. Mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'ils doivent tous se trouver à un endroit comme ceci. Parce que l'épouse dort dans la poussière de la terre autour du monde, de l'Arctique au tropique, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Jésus a dit, à l'avènement du Fils de l'homme, ce sera pareil à l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Le tout, il y aura une résurrection, un enlèvement, et elle s'en ira. Et avant même qu'elle aille à sa rencontre, observez la sagesse du Seigneur. Maintenant, disons par exemple ceci. C'est en pensant à la grâce de Dieu et en ayant foi dans la parole que je dis « nous ». Je me mets avec vous tous et avec le corps entier de Christ universel. Je crois cela. Quand je dis « nous », je veux dire que par sa grâce, je le crois. Par la foi, je crois que dans sa grâce, nous serons parmi ces gens qui seront enlevés. Maintenant, la première chose qui arrive quand nous sommes ressuscités, ceux qui sont vivants resteront simplement. La résurrection arrivera premièrement. la résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un temps de réveil. Et ceux qui dorment dans la poussière maintenant, non pas ceux qui dorment dans le péché, car ils continueront à dormir, ils ne se réveilleront pas pendant encore 1000 ans, mais ceux qui dorment dans la poussière seront réveillés premièrement. Et ils, ces corps corruptibles, revêtiront l'incorruptibilité dans la grâce du Seigneur pour l'enlèvement. Et alors, nous nous réunirons tous. Et quand ils commencent à se réunir, alors nous les vivants qui sont restés, nous serons changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout à coup, il y aura comme quelque chose qui passera sur vous, et vous serez changés. Vous serez transformés comme Abraham, d'un homme âgé en un jeune homme, d'une femme âgée en une jeune femme. Quel est ce changement subit? Et quelque temps après, vous voyagez comme une pensée. Et vous pouvez alors voir ceux qui sont déjà ressuscités. Oh, quel moment! Alors, nous nous réunirons avec eux et nous serons enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce n'est pas nécessaire si votre oncle est enseveli dans le sud du Kentucky, de l'amener en Indiana, ou s'il est enseveli en Indiana, de l'amener dans le sud du Kentucky, peu importe où il est. Ceux qui sont morts dans la mer ressusciteront de la mer. Ceux qui furent détruits dans cette arène et dévorés par les lions. Ceux qui furent jetés dans les fournaises ardentes et dont il ne reste même pas les os ou la poussière, ils ressusciteront malgré tout. Qu'ils se soient trouvés à Rome, dans l'arène à Rome, dans les jungles tropicales du sud ou dans les régions glacées du nord, ils ressusciteront des morts, seront changés et enlevés. Et les vivants seront changés en un instant, en un clin d'œil, pour être enlevés ensemble. Regardez les missionnaires qui sont morts là-bas en Afrique. Regardez ceux qui sont morts dans les régions glacées du Nord. Regardez ceux qui sont morts dans l'arène, partout dans le monde, au Congo et tout autour du monde. Ils sont morts partout, en Chine, au Japon, autour du monde. Et la venue du Seigneur, cet enlèvement sera universel. Observez le changement. Il y en aura deux dans un même lit. J'en prendrai un, je laisserai l'autre. Au même moment, il y en aura deux dans le champ, j'en prendrai un, je laisserai l'autre. Un sur le côté obscur de la terre et l'autre sur la partie éclairée de la terre. Voyez-vous, ce sera un enlèvement universel. Oui, toute l'Église sera réunie, mais après que la résurrection et l'enlèvement aient eu lieu. Maintenant, si vous ne le voyez pas ainsi, eh bien, ça ne fait rien. Je ne dis pas simplement ceci, l'histoire de parler, car nous l'enregistrons, voyez-vous. Il y a peut-être d'autres prédicateurs qui ne sont pas d'accord avec cela, mais c'est en ordre. Cher frère Branham, ma question concerne le baptême. Quand une personne est-elle sauvée? J'ai entendu dire que c'était lorsqu'une personne croyait. Certains disent que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes sauvé. Bien que vous n'ayez pas été baptisé dans l'eau, comme dans le cas de Corneille dans Actes 10, 47. Certains disent que Paul fut sauvé sur la route de Damas, mais dans Actes 22, 16, il est dit qu'il avait toujours ses péchés 3 jours plus tard. Une personne peut-elle être baptisée du Saint-Esprit, comme Corneille, et avoir encore ses péchés, étant donné qu'elle n'a pas eu le baptême d'eau? Ou le passage d'une personne au ciel n'est-il pas possible avant le baptême d'eau, bien qu'elle ait le Saint-Esprit? Maintenant, mon cher ami, ce frère a signé. Je ne le connais pas, mais il a signé. Je ne vais pas mentionner les noms, car ce n'est pas nécessaire. Cela permettra à d'autres personnes d'aller leur dire, « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous sur ceci et cela. » Voyez-vous, je ne mentionnerai donc aucun nom. La plupart de ces questions sont signées, mais c'est juste pour moi. Voyez-vous, je les remets là-dedans afin de pouvoir les garder. Ainsi, c'est écrit à la main, à l'encre bleue. D'autres sont tapés à la machine, etc. Maintenant, la question ici était pour commencer, « Quand êtes-vous sauvés ?» Et ensuite, « Les péchés peuvent-ils être pardonnés en dehors du baptême d'eau ?» Car Corneille avait reçu le Saint-Esprit, lui et sa maison, et n'avait pas encore été baptisé dans l'eau. Et Paul, après son expérience sur la route de Damas, avait également encore ses péchés sur lui jusqu'à ce qu'il fût baptisé, parce qu'il est dit, J'ai relu tous ces passages pour être sûr. Ainsi, c'était, il dit, « Lève-toi et sois immédiatement baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Sois baptisé en ayant tes péchés pardonnés et va en invoquant le nom du Seigneur. » Le baptême du Saint-Esprit est-il, une personne peut-elle en être baptisée et avoir encore ses péchés, n'ayant pas été baptisée dans l'eau? Le passage d'une personne au ciel est-il assuré lorsqu'elle est baptisée, bien qu'elle ait le Saint-Esprit, doit-elle néanmoins être baptisée dans l'eau avant que son passage au ciel soit assuré? Maintenant je crois, or je ne connais pas ce frère, et c'est une très bonne et intelligente question. Elle devrait être traitée longuement, parce qu'il est important que nous sachions ces choses, voyez-vous? Maintenant, je suis un peu porté à croire que le frère me dit peut-être, ou qu'il essaye de me faire dire cela, ou peut-être qu'il le croit, je ne sais pas, à propos de quelque chose que je crois être un petit peu contraire à la réelle et véritable foi dans la parole. Par ceci, il semble que le frère dise, « Or, c'est en ordre, frère, vous êtes peut-être présent, et c'est bien. » Je pense que c'est une bonne, je suis si content que vous l'ayez mise là-dessus, voyez-vous, mais je ne crois pas dans le fait d'être baptisé dans l'eau pour la régénération, voyez-vous, parce que dans ce cas, cela omet le sang, voyez-vous, vous êtes baptisé dans l'eau pour montrer que la régénération a eu lieu, voyez-vous, c'est simplement une chose extérieure, un symbole de la régénération, le tout repose uniquement sur la prédestination, voyez-vous, mais nous ne savons pas qui l'est et qui ne l'est pas. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile, nous allons simplement prêcher par la foi. Mais c'est maintenant sur la régénération que je diffère avec les frères unitaires. Et vous, frères unitaires, qui entendez cette bande de questions, cela arrive dans votre bureau ou dans votre maison, ou parmi vous qui êtes unitaires, ne me comprenez pas mal maintenant, parce que simplement nous ne sommes pas d'accord. Ma femme et moi, nous ne sommes pas d'accord, assurément. Je lui dis que je l'aime, elle dit qu'elle ne le croit pas. Ainsi, bien sûr, que nous ne sommes pas d'accord, mais laissez-moi vous dire que nous entendons bien. Maintenant, remarquez, peut-être que je ne lui le montre pas assez, ce serait ce que je vais prêcher à l'extérieur, je reviens à la maison, prends ma canne à pêche et je vais pêcher, voyez-vous, mais au fond de mon cœur je l'aime, je dois simplement rester éloigné d'elle, c'est tout. Remarquez à propos de ceci, or, si nous ne sommes pas d'accord, ça ne fait rien, mais voyez-vous, l'eau ne pardonne pas les péchés, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ainsi, je crois que la raison pour laquelle Paul dut être baptisé là, c'est qu'il est officiel et essentiel dans la Bible que nous soyons baptisés. Parce que j'en viens alors à ceci. Quand le brigand était sur la croix, il est mort sans être baptisé, mais en ayant pourtant la promesse que Jésus le rencontrerait au paradis ce jour-là. Au paradis. Et non pas dans le domaine des perdus. Parce que c'est la première fois que l'occasion lui était présentée. Et je crois que le cœur de ceux qui étaient dans la maison de Corneille était dans le même état quand ils reçurent la parole de Dieu avec joie. Le Saint-Esprit est cette parole vivifiée. Elle avait été vivifiée en eux. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit commença à parler dans d'autres langues et à prophétiser. C'est dans les cœurs réceptifs de Jean ayant vu tout le surnaturel que la parole est tombée. C'est ce qui m'intrigue aujourd'hui, en cette heure où nous vivons. Après que ce groupe de Romains et de Grecs ait vu la manifestation d'une vision confirmée, le Saint-Esprit émut à tel point ses cœurs que, tandis que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit tomba sur eux. Voyez-vous? Vous voyez, Corneille dit, allez dire, il était un centenier, et cela vient de centurie, qui veut dire cent. Il convenait donc à cent hommes. C'était un centenier romain. Il avait une vision alors qu'il priait, un ange était venu vers lui. C'était un homme bon. Il lui dit, « Va, je paie chez un certain Simon, corroyeur. Là se trouve un homme appelé Simon-Pierre. Il est, tu le trouveras là, et il viendra t'annoncer la parole. » Eh bien, il pensa que cette vision était tout à fait réelle. Je n'aurais pas pu être endormi. Je regardais directement l'ange en face. Il envoya donc là-bas quelques-uns de ses plus fidèles soldats. Et pendant qu'il était là, Dieu préparait l'apôtre à l'autre bout de la ligne. Il lui dit, « Lève-toi maintenant !» alors qu'il était sur le toit de la maison, attendant que Madame Simon prépare le dîner. Et pendant qu'il était là, en haut, l'apôtre avait faim, car il avait probablement marché à travers les déserts. Il était couché sur la maison, juste avant dîner, sur le toit de la maison, comme c'était l'habitude. Ils font toujours la même chose, ils s'étendent sur le toit, et ils en redescendent par une échelle, parfois un escalier. Ils s'asseyent là dans la fraîcheur du soir. Mais l'apôtre s'endormit. Et pendant qu'il dormait, il alla plus loin que le sommeil et il tomba en extase. Il vit alors une toile qui descendait, couverte de toutes sortes de choses impures, et il entendit une voix lui disant, « Lève-toi, tue et mange. » Il répondit, « Non point, Seigneur, car rien d'impur n'est jamais entré dans ma bouche. » Maintenant, vous voyez, voici une vision, observez, cela devait être interprété. Or, il semble que Pierre allait faire une partie de chasse, et trouve un animal qu'il n'avait jamais mangé auparavant, et essaye de le manger. Il dit, « Non point, Seigneur, je n'ai jamais fait entrer quelque chose d'impur dans ma bouche. » Il lui dit, « Ne tiens pas pour impur ce que j'ai purifié. Lève-toi, il y a des hommes qui t'attendent à la porte. Va et ne doute de rien. » Ceci au même moment qu'il frappait à la porte. Maintenant, voyez-vous, alors que ces fidèles soldats découvrent cet homme, conformément à la vision, et les voici qui reviennent avec l'homme même dont Dieu avait parlé dans la vision. Une personne inconnue, juste un petit pêcheur inconnu. Mais pour ce petit groupe, c'était si important qu'ils aient trouvé ce petit pêcheur. Et le voici qui entre maintenant dans la maison, à l'endroit même où il eut la vision. Corneille réunit tout le monde et leur dit, « Eh bien, c'est exactement tel que je l'ai vu. » Alors Pierre se leva et commence à leur dire de quelle manière il reçoit le Saint-Esprit. Et comme il prononce encore ses mains, ils avaient vu tout concorder parfaitement avec une vision. Un groupe de gens, faisant partie des nations, virent une vision manifestée. Et ils entendirent la parole de la vérité leur dire comment ils recevraient la vie. Et le Saint-Esprit tomba sur eux avant même qu'ils soient baptisés. Quel effet cela devrait-il produire sur ce tabernacle ce matin? Vous qui êtes malades, affligés, aveugles, sourds, muets, pêcheurs, vous tous, posez simplement, cœur sur une dizaine de milliers de choses, pas une seule fois, un seul iota n'a failli. Oh, cela devrait embraser nos cœurs. Comme il prononce encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau, étant donné que ces gens ont reçu le Saint-Esprit comme nous-mêmes? Je crois que leur péché était déjà parti. Car sinon le Saint-Esprit ne serait pas entré. Elle ne serait pas entrée à moins qu'ils aient été un vase prédestiné. Ils savaient qu'ils suivraient. Ils savaient. Je crois que la raison pour laquelle Paul dut être baptisé, il avait persécuté les chrétiens, c'est vrai. Dieu savait, car il dit à Ananias le prophète, « Je l'ai choisi. » Saul, ayant été aveuglé par la colonne de feu qui lui était apparue sur la route, se trouvait là dans une chambre. Son visage était noirci et ses yeux assombris. Il avait prié si fort. Il était recouvert de poussière. Quand Dieu le vit ainsi, il dit, « Je l'ai choisi comme un instrument pour les nations. » Dieu savait qu'Ananias pourrait le baptiser au nom de Jésus-Christ dans la rivière de Damas 3 jours plus tard. Mais je crois que ses péchés étaient déjà pardonnés. Cependant, il devait faire ceci pour montrer au monde. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Je crois que les semences prédestinées le verront et qu'elles seules le verront. Maintenant, frères de la foi trinitaire, je ne vous jette pas la pierre à ce sujet. Mes chers frères, je ne fais que répondre à des questions. Je ne fais qu'exprimer mes pensées véritables à ce sujet. Cette bande arrivera peut-être une fois en Afrique. Je crois que nous sommes dans les ombres de sa venue. Nous croyons tous cela. J'ai de chers amis comme les Duplessis, les Schumanns, les Jäger et tous ces braves frères en Afrique du Sud. Mais il y a toujours dans la vie d'un homme quelqu'un qui se détache des autres. Et de tous les hommes que... Et je les aime tous autant que j'aime ce frère. Mes frères Jackson et sa femme m'ont toujours marqué dans ma vie. Je ne pouvais pas le comprendre, mais il m'a cependant marqué. Or, il y a Justice Duplessis, qui est un ami d'enfance, et aussi, oh, beaucoup d'autres braves frères et sœurs d'Afrique du Sud. Mais alors, pourquoi frère Jackson et sa femme m'ont-ils marqué? Parce qu'il était un chasseur? Non. Car j'ai là-bas beaucoup d'amis qui chassent. Mais pourquoi m'a-t-il marqué? Pourquoi, si vous connaissez seulement le secret qu'il y a derrière tout ceci? Or, je ne dis pas aux gens tous les secrets que je connais. Eh bien, pourquoi à la même heure où le Seigneur me dit « Contacte Sidney Jackson en Afrique du Sud », le Seigneur dit à Sidney Jackson de venir ici. Dimanche dernier fut baptisé, lui et sa femme, au nom de Jésus-Christ, ici même, dans le temps de l'ombre. Vous voyez, prédestiné à la cause. Voyez-vous, maintenant, je crois que vous êtes sauvés en acceptant Jésus-Christ. Et le baptême d'eau est une manifestation extérieure servant à montrer que quelque chose d'intérieur s'est produit, parce que l'eau n'a aucune vertu. C'est simplement un symbole. Je crois que vous êtes sauvés lorsque vous... Maintenant, il y a de nombreuses personnes... Laissez-moi corriger ceci pour ce frère. Il y a de nombreuses personnes qui disent qu'elles sont sauvées. Beaucoup sont baptisées au nom de Jésus. Beaucoup parlent en langue et ont toutes sortes de signes du Saint-Esprit. Et elles ne sont même pas encore sauvées. C'est vrai? En ce jour-là, beaucoup viendront vers moi et diront, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom ?» Un prédicateur. « N'ai-je pas chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de grandes œuvres puissantes ?» Il répondra, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Voyez-vous, ainsi toutes ces choses, pourtant, c'est Dieu, c'est entre ses mains. Mais quand je vois cela, vous dites, « Eh bien alors pourquoi rappelez-vous aux gens d'être baptisés ?» C'est parce que je suis le modèle du commencement. Nous ne pouvons pas perdre ce plan. Maintenant, prenons l'apôtre Paul, quand il trouva certains disciples qui étaient des gens merveilleux. Je crois qu'ils étaient sauvés. Eh bien, qu'ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, ils étaient déjà baptisés. Acte 19. Paul, après avoir traversé les régions supérieures, arriva à Éphèse et trouva là certains disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Nous avons été baptisés, Jean nous a baptisés, le même homme qui baptisa Jésus. » C'est pas si mal comme baptême. Cependant, observez cet apôtre sévère. Il dit, « Mais Jean a seulement baptisé du baptême de repentance, et non pour la rémission des péchés. » Parce que le sacrifice n'avait pas encore été tué. Ils étaient baptisés en vue de cela. Et quand ils entendirent ceci, ils furent rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. Maintenant, qu'est-ce que cela a fait? Cela a montré que ces gens qui étaient prédestinés à la vie, aussitôt qu'ils virent la vérité scripturaire, ils marchèrent dans la vérité et reçurent la récompense d'un croyant. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils parlèrent en langue, prophétisèrent et magnifièrent Dieu. Comprenez-vous cela maintenant? Voyez-vous, ils firent cela après qu'ils aient déjà eu une grande joie et qu'ils aient poussé des cris et loué Dieu. Dans la Bible, ils avaient là-bas un prédicateur baptiste. Il fut aussi baptisé. Ils prouvèrent par la Bible que Jésus était le Christ. Et les gens étaient dans une grande joie. Ils étaient si heureux de cela. Mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils durent être rebaptisés. Et Paul dit dans Galates 1:8, « Si un ange du ciel vient et vous prêche un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème, peu importe ce que ce serait. » C'est pourquoi, connaissant ces choses, peut-être que vous ne les connaissez pas, mes frères, mais connaissant ces choses, je suis alors contraint et lié par le devoir envers Dieu de poursuivre le plan de la première fondation. Car aucun autre homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui s'y trouve déjà. C'est-à-dire celle des apôtres et prophètes. Les prophètes l'ont prédit, les apôtres l'ont exécuté, et nous sommes censés continuer à l'exécuter jusqu'à ce que le bâtiment soit achevé. Je crois donc qu'un homme est sauvé quand il croit au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. De son cœur, mais non pas de sa conscience extérieure. Vous voyez, vous êtes une personne double, trois personnes en une. L'âme, le corps et l'esprit. Or, je crois que vos sens extérieurs, votre âme, non pas votre âme, mais votre conscience extérieure, vos sens. En d'autres termes, quand vous êtes réveillé, vous êtes dirigé par cinq sens, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ils vous ont simplement été donnés pour contacter votre demeure terrestre. Ils ne vous ont pas été donnés pour contacter votre demeure céleste. Il y a en fait six sens dans un corps humain, parce qu'il porte le nombre 6 dans la Bible. Il fut créé le sixième jour, et l'homme porte le nombre 6. Il a la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la foi. Sa foi décide de sa destination, de l'endroit vers lequel il se dirige. Or, la foi est une ferme assurance ou la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que vous ne voyez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas, ne sentez pas ou n'entendez pas. Mais par la foi, quand il saisit la parole, elle l'envoie dans une dimension, voyez-vous, qui la rend si réelle pour lui, que cela a autant de valeur pour lui que s'il l'avait dans sa main. Il sait que cela va arriver. Maintenant, c'est la même chose avec cette question ici sur le baptême d'eau. Voyez-vous, Dieu savait que ces gens allaient être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Paul déclara qu'aucun homme, ni même un ange du ciel, ne devrait enseigner une doctrine autre que celle que lui a enseignée. C'est pourquoi, si je viens en tant que prédicateur, ministre, prophète, ou quoi que ce soit d'autre, ou même en tant qu'ange qui descendrait du ciel, et que j'enseigne quelque chose de contraire à ce qu'a fait cet apôtre, ne commandons pas aux gens d'être rebaptisés au nom de Jésus-Christ, je serai trouvé par la Bible un faux témoin de la chose que je prétends croire. Ainsi, je crois que le modèle a été donné. Chaque personne dans la Bible fut baptisée au nom de Jésus-Christ. Pas une seule fois quelqu'un fut baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez-vous, jamais quelqu'un fut-il aspergé, ils furent tous immergés. Ainsi, je crois que lorsque vous êtes vraiment, pour répondre à votre question, cher frère, je crois que lorsque Dieu connaît votre cœur, il n'y aura pas des milliers qui ont été baptisés au nom de Jésus. Vous entrez simplement dans l'eau un pêcheur sec et vous en ressortez un pêcheur mouillé. Voyez-vous? Mais en tant qu'authentique et véritable croyant, vous devez marcher dans toute la foi, avec une bonne conscience envers Dieu. Et lorsque vous voyez cela, vous êtes baptisé. Mais je crois que c'est seulement une manifestation extérieure montrant qu'une œuvre de grâce intérieure a été accomplie. C'est pareil lorsque Dieu construisit l'arche. Il dit, Noé, entre là-dedans, toi, ta famille et ta maison. Et ils entrèrent. Maintenant, je crois que s'il n'y avait pas eu d'arche là, Dieu aurait laissé Noé s'asseoir sur un tronc ou marcher sur l'eau. Voyez-vous? Mais il fit une arche pour qu'il y entre et c'est ainsi qu'il fallait faire. C'était le moyen procuré par Dieu. Je crois que Dieu sauve un homme par grâce. Au nom de Jésus-Christ, à travers une manifestation extérieure, c'est le moyen procuré par Dieu pour entrer. Car ils furent tous baptisés ainsi. Je ne condamne pas l'autre personne, mais c'est simplement, je pense que c'est ainsi. L'eau ne sauve pas un homme. Cela montre seulement qu'il a été sauvé. C'est une manifestation extérieure. Maintenant, ce n'est peut-être pas juste, frère. Si ce n'est pas juste, eh bien, nous y reviendrons une autre fois. Très bien. Dans Genèse 6, 4, après le déluge, d'où sont venus les géants? Ça est une bonne, une très bonne. C'est une question judicieuse. D'où sont venus ces géants? Adam n'était pas un géant, tant que nous le sachions, parce que s'il en avait été un, la Bible aurait dit. Il n'était qu'un homme ordinaire. D'où sont-ils venus? Or, c'est un sujet très discuté, et ceci vient de m'être donné. C'est sur un grand morceau de papier foncé, ou plutôt c'est écrit en gros caractère foncé sur un morceau de papier blanc. Maintenant, ces géants. Je crois que quelqu'un ici, il n'y a pas longtemps, c'était peut-être Joseph. Maintenant, mes frères dans le ministère, je ne dis pas que c'était Joseph, mais il me semble que ça aurait pu être lui ou le docteur Scofield ou l'un des autres qui a dit que ces géants qui étaient dans le pays étaient en fait des esprits de Dieu déchus qui avaient écouté l'histoire que Satan avait racontée au ciel pour essayer d'amener une guerre contre Michel dans le ciel et qu'ils furent ensuite jetés dehors. Il dit que ces fils de Dieu virent les filles des hommes et que ces géants qui étaient dans le pays à ce moment-là étaient des esprits déchus qui s'étaient introduits dans une chair humaine. Si vous dites cela, vous faites de Satan un créateur. Vous ne pouvez pas le faire. Pas plus que le docteur Smith des Adventistes du septième jour concernant le bouc sacrificatoire. Il dit qu'un bouc était, il tuait deux boucs le jour du sacrifice, le jour de l'expiation, ou plutôt un bouc était tué et l'autre libéré. Et alors il dit que le bouc qui était tué représentait Jésus, le porteur de nos péchés qui est mort, mais que le bouc qui était libéré représentait le diable qui porte nos péchés et s'en va avec eux dans l'éternité. Maintenant, vous voyez, n'importe, à mon avis, si ceci revenait une fois à un frère adventiste, qu'il sache que je ne dis rien contre ce grand homme qui était le docteur Smith. Oh, c'était un chrétien brillant, intelligent et instruit, un croyant. Mais voyez-vous, à mon avis, cela n'a pas de sens. Quand vous faites cela, vous offrez alors un sacrifice au diable. Les deux représentaient la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Il est aussi mort pour nos péchés et les a emmenés au loin. Les deux étaient Christ. Ainsi, les géants n'ont jamais été des esprits déchus qui se sont introduits. Ces géants étaient les fils de Caïn, dont le père était le serpent, qui ressemblait en tout point à un homme. Mais il était immense et plus grand qu'un homme. C'est de là que sont sortis ses fils, parce qu'ils étaient les fils de Caïn et qu'ils étaient des Cananéens, venant du pays de Canaan. Et c'est là que Caïn est allé. C'était, voyez-vous, cela prouve aussi la semence du serpent. C'était une race de gens entièrement différente. C'était des semences du serpent. Voyez-vous? Maintenant, cette question sur la semence du serpent est là-dedans. Ainsi, nous allons y arriver, et je veux que vous gardiez ceci à l'esprit. Voyez-vous, ceci servira de base. Voyez-vous, ils étaient cananéens, ces géants. Et ils étaient les fils de Caïn, qui était le fils du serpent. Et le serpent était un homme géant. C'était un être immense, pas du tout un reptile. Et il était beau. C'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et c'était le seul, voyez-vous, les gènes d'un animal mis dans une femme ne saliront pas du tout. Ils ont essayé maintes fois, cela ne peut féconder le sperme de la femme. Et maintenant, ils ne peuvent trouver cela. Prenez le chimpanzé, c'est l'animal le plus proche de l'homme qu'ils peuvent trouver. Ou alors le gorille, ou un autre. Mais Dieu, dans sa grande évolution, commença par faire les poissons. Ensuite, il crée les oiseaux, puis il fit d'autres animaux, et cela continua jusqu'au chimpanzé, au singe, au gorille, puis dans la fange du serpent, et ensuite du serpent à l'homme. Les hommes ont essayé de chercher, au moyen de la science, les os de cet animal, qui était proche de l'être humain. Et l'humain est un animal. L'homme, la chair, est une chair animale. Nous savons cela. Nous sommes des mammifères, c'est-à-dire des animaux à sang chaud. Nous savons cela. Mais qu'est-ce qui fait la différence? L'animal n'a pas cette âme intérieure. Tandis que bien l'humain, il ne sait pas reconnaître le bien du mal. Une petite chienne ne sait pas qu'elle doit porter une robe. Et je ne crois pas qu'elle porterait des shorts si elle comprenait. Une truie non plus. Mais c'est une race humaine déçue, voyez-vous? Or, c'est de là que cela vient. C'est de là que viennent ces géants. Ils étaient les fils du serpent. Et voyez-vous, lorsqu'il vit Ève dans cette condition, Satan entra en lui et le fit. Voyez-vous, Adam n'avait pas encore découvert cela. Je ne sais pas comment utiliser ces mots. Ce serait en ordre ici avec vous tous, mais quelqu'un aurait vite fait de critiquer ceci. Vous savez, ils essaient toujours de trouver quelque chose. Mais voyez-vous, Adam n'avait pas encore connu Ève, sa femme. Il n'en était pas encore arrivé là, et Satan l'y a battu. Voyez-vous? Et alors, une fois enceinte, il l'a connue. Nous le verrons dans la question suivante, ou dans une de ces questions. Je ne sais pas où elle se trouve, je l'ai juste vue là-dedans. Mais c'est de là que sont venus les géants. Chers frères Branham, tous les fils et filles de véritables croyants nés de nouveau seront-ils sauvés? Non, frère, non, assurément pas. Je copie David Duplessis lorsque je dis « Dieu n'a pas de petits-enfants, voyez-vous, uniquement des fils et des filles. Ils devront donc naître de l'esprit exactement comme leur père et leur mère l'ont fait. Voyez-vous, ce qui fait d'un homme une nouvelle personne, c'est qu'il est né de nouveau. Sa première naissance fait de lui un homme naturel sur la terre. Sa seconde naissance fait de lui un homme spirituel du ciel. » Voyez-vous, cela le change son âme, non pas sa conscience extérieure, son être extérieur, ses sens, il peut toujours toucher, sentir, goûter, entendre, mais ses parties intérieures, ses désirs, ceux qui le motivent, ont été changés et sont dirigés vers Dieu. Comprenez-vous? Maintenant, souvenez-vous, la seule façon permettant ceci d'arriver serait que cela soit semblable à ce qui arriva du temps du centenier romain. Paul, qui était avec Silas, dit aux Romains lorsqu'il voulut tirer son épée et se donner la mort parce que Dieu avait secoué la prison par un tremblement de terre, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici, lève-toi !» Elle voulait savoir ce qu'il pouvait faire. Il lui dit, « Lève-toi et sois baptisé, en invoquant le nom du Seigneur, et toi et ta maison serez sauvés. » Voyez-vous, En d'autres termes, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Alors, de quelle manière? Si ta maison croit de la même façon que tu crois. Voyez-vous? Priez et remettez vos enfants à Dieu, puis attachez-vous à Dieu en croyant qu'ils seront sauvés. Je viens d'avoir cette expérience avec ma Rebecca. Voyez-vous? Remettez simplement la chose à Dieu. Lorsqu'elle est devenue une adolescente, elle allait avec une fille. Lorsque nous sommes allés là-bas la première fois, elle allait chez une fille prendre des leçons de musique. Et cette fille, un jour je suis entré en passant et cette fille était là en train de jouer du rock'n'roll au piano. Eh bien, ça m'a suffi. Aussi, je lui dis de ne pas retourner là-bas, voyez-vous. Elle dit alors, mais c'est le seul endroit où je peux aller apprendre la musique. Vous savez comment deviennent les adolescents. Et je dis, chaque enfant doit passer par là. Pratiquement, chacun passe par cet âge. Vous y avez passé, et moi aussi. Et nous devons penser comme eux. Puis, quelques jours plus tard, sa mère dut la reprendre à propos de quelque chose, et elle répondit d'une façon impertinente. Or, ce n'est pas du tout Rebecca. Elle partait à l'école en claquant la porte et en faisant presque tomber les choses du mur. Eh bien, j'aurais dû, semble-t-il, enlever ma ceinture, la suivre dans la cour et la ramener couverte de marques, voyez-vous? Mais j'ai pensé, attends une minute, je dois penser comme quelqu'un de 18 ans. Voyez-vous? Je dis, maman, je sais que... Meda commence à pleurer. Je lui dis, je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais, et j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, si c'est pour nous hors de contrôle, nous devons faire le pas suivant. Comme une dame me l'a aimablement écrit l'autre jour, c'est ici dans une de ses questions. Frère Branham, vous n'êtes pas le Messie, n'est-ce pas? J'ai répondu, non, madame. Elle dit, nous croyons que vous êtes notre berger, mais vous nous conduisez toujours vers le grand berger. J'ai dit, c'est vrai, voyez-vous. J'ai dit, eh bien, regarde, chérie, maintenant tu dois m'écouter. Il était difficile de faire ceci. Je suis ton mari. Mais des gens font la traversée de tout le pays, simplement pour recevoir quelques conseils. Maintenant, si tu... Je lui ai parlé l'autre jour, et elle est simplement partie. Or, Becky ne m'a jamais fait cela. Voyez-vous? Et lorsque sa mère lui a dit quelque chose à ce sujet, elle a claqué la porte en disant, « Tu t'attends à ce que je reste ici et que je fasse tapisserie toute ma vie !» Et vlou, elle claque à la porte et sortie. C'était le diable. Je me souviens que les deux premières années de sa vie, elle a pleuré. Lorsque nous allions manger au restaurant, je la promenais dans la rue, pendant que Meda mangeait, et ensuite c'est elle qui la promenait, pendant que je mangeais. Elle pleurait, pleurait. Un jour au Canada, elle pleura toute la nuit, et je n'ai pas pu me reposer. Alors que je me tenais là, quelque chose me dit, « C'est le diable qui attaque ton ministère. » Je dis, « Tends-moi ce bébé. » Et je dis, « Satan, au nom de Jésus-Christ, laisse-la tranquille. » Elle arrête à ce moment-là, elle n'a jamais plus pleuré depuis. Elle est l'enfant le plus calme que j'ai. Depuis ce moment-là, c'était fini. Vous devez avoir cependant, vous devez avoir cela en vous avant que vous puissiez le faire. Et alors elle commence à cela. Je suis resté avec Meda environ une heure et je lui ai dit, « Meda, laisse-la tranquille. Moi, c'est mon enfant. » Je lui dis, « N'est-ce pas aussi le mien ?»« Très bien. » Je dis, « Si elle se mourait ce matin, tu devrais la remettre à Dieu pour sa destinée éternelle. » Mais pourquoi ne pouvons-nous pas la remettre à Dieu maintenant pour son voyage terrestre? Elle dit, mais c'est mon enfant. Je dis, c'est aussi le mien. Je dis, maintenant, peux-tu, moi, ne rien lui dire? Je lui dis, je n'ai pas dit cela. Mais allons cesser de la gronder et simplement la conseiller. Elle a besoin d'un copain, et tu es celle qui doit être son copain. Toi et moi, nous sommes ses parents. Ses enfants aujourd'hui ont besoin d'un copain. S'ils avaient un père et une mère qui restaient à la maison et s'occupaient d'eux plutôt que d'aller courir dans les bars toute la nuit, il n'y aurait pas de délinquance juvénile. Voyez-vous? Ils se sont éloignés de la Bible. Ils sont tous allés à l'église et sont mis à jouer là à des jeux déshonnêtes. Voyez-vous? Vous essayez de lustrer cela comme le terrain de Satan, Hollywood. Vous ne pourriez jamais amener Hollywood dans l'église. Vous devez, je veux dire, amener l'église dans Hollywood. Vous devez amener Hollywood sur votre terrain. Voyez-vous? Non pas aller sur leur terrain, mais laissez-les venir ici. Nous avons quelque chose dont ils ne connaissent rien. Ainsi, nous sommes agenouillés là et avons remis cela à Dieu. J'ai dit, je sais qu'elle a 18 ans. Ou qu'elle les aura dans quelques jours, et une fille de cet âge pense au garçon, et nous l'avons gardée dedans. J'ajoutais, je n'ai jamais voulu la voir mariée. Je veux la faire travailler ici dans le bureau. Je veux la voir remplie de l'esprit et vivre comme cela. Elle, eh bien, nous voulions tout cela. Elle dit, nous ne pouvons pas le faire. Elle ne veut pas écouter. Je dis, attends une minute. Nous avons fait tout notre possible pour bien l'élever. Maintenant, abandonnons-la dans les mains de Dieu. Puis, lorsqu'elle fait quelque chose, dit, Becky, ma chérie, maman ne veut pas que tu fasses cela. Mais je suis ta copine. Je resterai attachée à toi. Vois-tu, fais-lui savoir que tu l'aimes. Elle va chercher quelqu'un qui l'aime, et ce sera peut-être la mauvaise femme. Voyez-vous, j'ajoutais, que ce soit toi la femme qui l'aime. J'ai dit, chérie, cela paraît un peu cru. Mais les gens viennent de partout pour avoir une entrevue personnelle. Je suis si ordinaire. Nous sommes ordinaires l'un à l'autre, parce que nous sommes mariés-femmes. Mais nous ne devrions jamais laisser cela arriver. Tu dois te souvenir, c'est dit au nom du Seigneur. Très bien, dit-elle. Nous sommes agenouillés, l'avons remise à Dieu en disant que nous allions laisser cela tranquille. Cet après-midi-là, elle dit en entrant, « Eh bien, je suppose que vous dites toujours que je ne dois pas aller là-bas. » Meda lui dit, « Non, je n'ai jamais dit rien à ce sujet. Mais tu sais que maman ne veut pas que tu fasses cela. Et tu sais que cela a presque tué ton papa lorsqu'il t'a entendu jouer là-bas ce boogie-woogie ou cette certaine musique avec cette fille. Il ne voulait pas que tu fasses cela. Et nous voulons pas que tu le fasses, Becky. Mais nous l'avons simplement remis au Seigneur. Je veux que tu saches que nous t'aimons. Quoi que tu fasses, nous t'aimerons toujours. » Et dit en criant, « J'irai quand même !» Elle dit, « Très bien, chérie. » Puis elle ajouta, « Très bien, j'aurai ton souper prêt quand tu reviendras. » Elle n'est jamais allée. Non, elle n'est jamais retournée depuis lors. Voyez-vous? Peu de temps après cela, elle rencontra George. George est un chrétien. Cette chose fut alors réglée. Elle essaya d'en parler à Madame Wood l'autre jour. Elle lui dit, « Oh, je suis devenue tellement sauvage !» Elle ajouta, « Papa et maman m'ont remise au Seigneur. » Elle dit, « Terriblement sauvage. » C'était sauvage pour nous. Or, nous ne voulons pas que ça devienne plus sauvage que ça. Voyez-vous, simplement, laissons cela tranquille. Très bien. Frère Branham, que pensez-vous de nos... Oh, je me souviens avoir lu celle-ci. Je n'allais la garder pour plus tard. Mais je pense que je ferais tout aussi bien de la lire. C'est l'écriture d'une femme. Elle doit venir du Kentucky, parce qu'elle a ici un reçu de la Cosmos Portland Cement. Frère Branham, que pensez-vous de nos sœurs dans l'église qui portent des robes si courtes? Cela ne ruine-t-il pas notre témoignage? Et cela ne donne-t-il pas le mauvais exemple à nos jeunes dans notre Église? Cela semble tellement de voir une femme adulte porter une robe si courte que cela montre ses genoux quand elle marche. Qui vous soyez, sœur ou frère, qui vous soyez, je suis d'accord avec vous à 100%. C'est une honte, mais dites-moi ce qu'il faut faire à ce sujet. Je prêche cela aussi fort que je peux, et elles agissent toujours de la même façon. Ainsi, c'est leur jugement, parce que la parole était proclamée. Oui, je suis certainement contre ces robes qui collent à la peau et qui ressemblent à... Je dois constamment reprendre mes enfants, Becky et Sarah, peu m'importe combien elles sont petites, je les reprends tout le temps. Je crois qu'elles portent même leur robe. Meda prend Becky à part chaque jour à ce sujet. Voyez-vous, leur robe courte. Parce que des enfants, vous pouvez vous attendre à cela de la part des enfants, et vous devez les corriger. Mais quand il s'agit d'une femme, il y a là quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous, je ne dis pas ça pour blesser. Je ne fais que répondre à des questions. Vous me demandez sincèrement, et je vous réponds sincèrement. Si vous pouvez trouver la solution, venez s'il vous plaît me la dire. Je le ferai certainement, si je peux faire quoi que ce soit à ce sujet. Par exemple, quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Eh bien, laissez-moi vous dire, frère Branham, qu'Adam et Ève ont effectivement mangé une pomme. » J'ai remarqué qu'ils ont changé cela maintenant. Ils ont dit qu'ils avaient mangé quoi? Je crois que c'était un abricot, oui, que c'était un abricot qu'ils avaient mangé. Eh bien, c'est le moment de distribuer de nouveau les abricots si cela leur fait réaliser qu'ils sont nus. Voyez-vous, frère Branham, j'ai accepté le message de Dieu de ce jour, et aussi notre fils. Et les deux, nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon mari n'a pas accepté le message et le combat. Il a influencé notre fils et l'emmène à l'église méthodiste. Il veut que j'aille avec lui à l'église quand nous n'avons pas de service ici au tabernacle. Serait-ce juste que j'aille avec lui, ou serait-il préférable de rester hors de cette dénomination? Eh bien, ma chère sœur, elle n'a pas signé, mais peut-être que vous êtes en train d'écouter la réponse à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous l'entendrez sur la bande. Allez avec votre mari, mais ne participez pas à ce qu'ils font. Voyez-vous, vous êtes censé aimer votre mari, et c'est l'amour qui se charge de cela. Soyez simplement très salé, il aura soif. Ne vous joignez pas à leur dénomination. Vous avez dit, restez éloigné de cette dénomination. Ne vous y joignez pas, mais allez-y. Si vous ne pouvez pas recevoir un pain entier, prenez la moitié. Si vous ne pouvez pas recevoir la moitié, prenez simplement une tranche, voyez-vous. Mais c'est en faisant cela que vous gagnerez votre mari. Ne soyez pas arrogante, car alors il saura qu'il a tout autant que vous, voyez-vous. Mais si vous pouvez montrer quelque chose que vous avez qu'il n'a pas, cela lui donnera soif d'être comme vous. La femme sanctifiée sanctifie le mari. C'était simplement un conseil. Je pourrais rester là, longtemps là-dessus, mais nous voulons répondre au plus grand nombre de questions possibles. Parce que je vois qu'il ne me reste qu'environ 22 minutes. Très bien. Frère Branham, je crois le message que vous enseignez de tout mon cœur. Il réjouit mon âme. Cependant, ma femme et mon fils ne se réjouissent pas dans la parole. Ils ne désirent pas se séparer de certaines de leurs habitudes mondaines. Vous avez dit que nous devrions réclamer nos familles. Je trouve cela difficile à faire, étant donné qu'apparemment, ils ne vivent pas pour la parole ou dans la parole. Que dois-je faire? Dois-je les réclamer et croire, ou dois-je prier, Père, que ta volonté soit faite, être satisfait de mon état? J'apprécierai votre conseil, frère Branham. Que Dieu vous bénisse, mon frère ou ma sœur, qui vous soyez. Je les remettrai simplement au Seigneur, voyez-vous, car tout ce que le Père me donne viendra à moi. Or, la seule chose que vous tous devez faire, cela remplit mon cœur de joie l'autre jour, lorsque je suis allé voir ces différents patrons de motel. Je suis allé chez M. Becker, il m'a dit, « Billy, tu sais quoi? Tu nourris toute ton assemblée chaque dimanche. » Et le Blue Board nourrit presque 300 personnes chaque dimanche. Voyez-vous, puis je suis allé là-bas au Ranch House, et ce monsieur, un homme très bien, je l'ai rencontré, je lui ai dit, « Eh bien, c'est très bien, j'apprécie que vous gardiez toutes ces choses loin d'ici, tous ces divertissements mondains. » Il dit, « Oui, frère Branham. » Je pensais, « Comment me connaît-il » Voyez-vous, je lui ai demandé, « Comment me connaissez-vous » Il répondit, « Je vous connais, et je nourris toute votre assemblée ici chaque dimanche. » Et je vais vous dire quelque chose, ce sont des gens remarquables, ce sont des gens remarquables. Mais voyez-vous, cela me fait du bien. Vous êtes mes enfants. Que j'entends dire que mes enfants agissent correctement, qu'ils sont gentils, cela fait vraiment du bien à papa. Voyez-vous, ainsi vous comprenez. Maintenant, mère, quand ma sœur, si votre mari veut que vous alliez à l'église méthodiste, allez-y. Vous n'aurez peut-être pas un pain entier, mais s'ils disent qu'ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, croyez cela, parce que nous le croyons aussi. Maintenant, s'ils commencent à avoir des idées saugrenues, laissez-les aller, mais mangez cette partie du pain, voyez-vous, et en cela vous montrez simplement pour la douceur de votre vie et votre égard pour les autres. Et si vous ne l'avez pas, ma chère sœur, eh bien, priez jusqu'à ce que vous l'ayez, afin que n'ayez pas à vous conduire d'une façon artificielle, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas réel. Votre mari peut le voir. Mais lorsque vous avez vraiment prié, à tel point que votre vie est remplie du sel du Sauveur, cela créera un contact. Si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'irai, mais soyez très prudente, ne vous joignez pas à leur église, s'il vous plaît, ne le faites pas, ne vous joignez pas à l'église, mais allez-y. Frère Branham, voici une question qui a un peu embarrassé plusieurs d'entre nous ici. Sur certaines bandes, vous dites que seuls les Juifs sont sauvés après que l'épouse est enlevée. Et il y a un trait en travers. Veuillez expliquer à fond ce qu'il advient des gentils qui ne partent pas dans l'enlèvement. Je pensais que vous aviez dit que les gentils qui restaient passaient par la tribulation et donnaient leur vie pour le témoignage de Jésus. Lorsqu'ils se tournent des gentils vers les Juifs, alors il n'y a plus aucune chance pour les gentils d'être sauvés. Seuls les gentils qui étaient sauvés, mais qui n'ont pas reçu leur vérité des derniers jours, entreront dans la période de tribulation et seront alors sauvés à la fin. Est-ce juste? Veuillez l'expliquer, parce que vous avez dit que seul un petit nombre partirait dans l'enlèvement. Qu'en est-il des gens qui croient au Seigneur maintenant, mais qui ne croient pas le message des derniers temps tel que vous le prêchez? Seront-ils sauvés? Puis la sœur a signé. C'est une très bonne question. Premièrement, la confusion vient de ce que j'ai dit à propos des jours des gentils qui seraient terminés quand la tribulation dans la tribulation. Je ne vois pas les gentils dans la Bible, l'épouse des gentils, l'épouse, non pas l'église des gentils, car l'Église des gentils passera par la période de tribulation. Voyez-vous? Mais non pour l'heure. Voyez-vous? L'épouse, ce sont les élus. Ils ne passent par rien d'autre que l'enlèvement. Ils sont simplement changés et enlevés du monde. Voyez-vous? J'expliquerai cela dans une des questions suivantes, en partant depuis Luther jusqu'à ce jour, et vous verrez alors ce que cela veut dire. C'est la maturation du corps. Voyez-vous? Maintenant, remarquez, les Juifs qui restent sont ceux qui recevront la prédication des deux prophètes, Élie et Moïse. Or, chers frères, dans le ministère, ce sont mes pensées personnelles, telles que je sens que le Saint-Esprit me l'a révélée. Maintenant, la chose qui doit arriver ensuite, ce sont les Juifs ou l'épouse élue des nations qui doit être enlevée avec le reste, l'épouse élue des nations.
A eu à travers les âges pour aller aux cieux dans la présence de Christ. Les morts ressuscitent, ceux qui sont vivants et qui sont restés sont changés et sont enlevés ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors parce que, après la cérémonie de mariage dans la gloire, Jésus, après qu'il ait été enlevé dans les cieux, Jésus retourne sur la terre et se fait connaître à son peuple. Comme dans le type Joseph se fait connaître à ses frères et sa femme, aucun gentil n'était présent. Il n'y avait personne sinon Joseph seul lorsqu'il se fait connaître à ses frères. Tous comprenaient cela maintenant. Il envoya, même sa femme était dans le palais, montrant sous forme de type que l'épouse sera dans le palais, dans la gloire à ce moment-là. Alors Jésus se fait connaître aux Juifs. Voyez-vous, après la cérémonie de mariage, les 3 ans et demi, et le temps de la détresse pour Jacob, ces 3 ans et demi, la fin de la 70e semaine de Daniel. Le Messie doit être retranché au milieu de la... Elle prophétisa 3 ans et demi et fut retranchée. Alors il reste encore 3 ans et demi pour les prophètes Moïse et Élie, puis à la fin de leurs 70 jours, qui sont encore fixés sur le peuple, comme Daniel l'a dit, ainsi à la fin de ces 70 jours, Jésus doit se faire connaître à eux. Il est ce prince qui doit venir aux Juifs, voyez-vous? Et à ce moment-là, voyez-vous, l'épouse des nations est au ciel, et la Vierge endormie, la Vierge des nations, ne doit pas être sauvée pendant ce temps-là. Elle a déjà été sauvée, mais elle a été rejetée de l'épouse. Elle passe seulement par la période de tribulation, qui sert de don de purification, parce qu'elle a rejeté Christ, la parole, pour sa purification. Alors elle doit souffrir pour ses actions, mais pour l'épouse qui est devenue la parole, il y a une expiation complète qui a été faite par Christ, parce qu'il est la parole. Ce corps fut déchiré, et quand il fut déchiré, l'épouse était dans ce corps, parce qu'elle est toute la parole. Amen. Le voyez-vous? Lorsque Jésus souffrit dans ce corps, il souffrit parce qu'un homme et une femme sont une seule personne. Elle fut sortie d'Adam et l'Église. Qu'arriva-t-il? Dieu ouvrit le côté d'Adam et l'en sortit une aide, une épouse. Et Dieu ouvrit le côté de Jésus au calvaire et en sortit l'épouse. Voyez-vous? Et quand Jésus mourut au calvaire, souvenez-vous, l'épouse ne fut pas sortie de ce corps avant que celui-ci soit mort. Il était déjà mort. Elles allaient lui briser les jambes. Mais le prophète dit, pas un de ses os ne sera brisé. Ainsi, ils avaient déjà soulevé le marteau pour lui briser une jambe. Mais un homme s'avança avec une lance et l'enfonça dans son cœur. Et de l'eau et du sang sortirent. Il était déjà mort. Elle était déjà rachetée dans le corps par sa mort. Ainsi, il n'y a plus de période de souffrance et de tribulation pour l'épouse. Voyez-vous, elle entre, mais l'Église des nations, qui croit simplement en lui et accepte des credos dénominationnels, etc., voyez-vous, ils n'ont pas accepté ce rachat. Car lorsque vous l'acceptez, il vous purifie automatiquement. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il n'en lui aucun désir pour les choses du monde. Jésus a dit, celui qui aime le monde, le cosmos, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il n'est pas épris du fiancé. Voyez-vous, c'est pourquoi elle doit en subir les conséquences. Elle n'est pas sauvée pendant ce temps-là. Elle est sauvée maintenant de la mort éternelle. Mais elle devra passer par la période de tribulation pour sa purification. Voyez-vous ce que je veux dire? Je crois maintenant que cette question est réglée. Voyons, il y a quelque chose d'autre ici. Veuillez l'expliquer parce que vous avez dit que seul un petit nombre partirait dans l'enlèvement. Ce sont ceux qui, sur la terre, vont être changés. Jésus a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin, et il y en a peu qui les trouvent. Qu'en est-il des gens qui croient au Seigneur maintenant, mais pas tels que vous le prêchez? Ils n'ont pas à croire ceci. Ils n'ont pas à croire tel que je le prêche, voyez-vous. Ils n'ont pas à croire cela. Le message des derniers temps, seront-ils sauvés? Oui, s'ils croient le Seigneur, voyez-vous. Et s'ils ne sont pas d'accord et qu'ils disent, je ne crois pas qu'il ait la parole, je ne crois pas que ce soit juste, je ne crois pas au baptême du Saint-Esprit, cela montre vers quoi il se dirige, la période de tribulation. Mais ceux qui peuvent accepter la parole dans sa plénitude, non pas parce que c'est moi qui la prêche, mais parce que c'est ce que la Bible dit, ceux-là sont libres, parce que la parole a déjà été jugée. Un juge droit pourrait-il juger un homme deux fois pour quelque chose? Si la peine a déjà été portée, si j'étais dans une maison de prêt sur gage, et que vous veniez dire, je vais le racheter, que vous entriez, que vous payiez alors le prix de mon rachat, et c'est la peine que je dois subir qui fait que je suis dans cette maison de prêt sur gage. Si donc vous payez pour mon rachat, comment l'homme de prêt sur gage peut-il alors me réclamer à nouveau, à moins que je sois de nouveau vendu? Vous y êtes. Lorsque je rejette la plénitude de la parole, je retourne alors directement à la maison de prêt sur gage. Voyez-vous? Je n'ai plus qu'à lutter pour en sortir, si je peux. Mais il m'a racheté. Très bien. J'espère que cela... J'en ai tellement ici que je désire prendre celle qui... Fin du premier côté de la bande anglaise. Le second côté commence avec une partie de la question 9 qui manque. Le troisième poule essaie de prononcer la parole. Il semble tout à fait possible que vous prononciez la parole et que quelqu'un soit complètement et entièrement restauré et rendu parfaitement prêt pour l'enlèvement et la résurrection. Le Fils de l'homme, est-ce ainsi ou non? Et vous le feriez si on vous y pousse comme il faut. Ne chercheriez-vous pas à échapper à toutes ces choses? Il y a là un idem. Échapper à toutes ces choses et à apparaître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Maintenant, mon cher ami, voyez-vous, je pense que vous avez fait une bonne constatation. Oui, monsieur, ce serait ainsi. Vous avez dit, frère Branham, en d'autres termes, voici ce que je ne pense pas que c'est, je veux pas changer ce que vous avez dit, mais je pense que je peux le rendre un peu plus clair pour les gens, voyez-vous. Vous croyez à cause des paroles parlées et des choses comme cela dont il a parlé, et vous tous qui êtes ici êtes témoins des écureuils et de toutes les autres choses qui sont arrivées. Mais, avez-vous remarqué, ce fut donné souverainement. Je ne lui ai jamais demandé, « Seigneur, laisse-moi faire ceci, laisse-moi parler pour faire apparaître ces choses et faire ça là. » Je ne lui ai jamais demandé cela. C'est lui qui, par sa propre volonté divine, est venu vers moi et m'a dit, « Va faire ceci. » Voyez-vous, je n'ai pas demandé une chose à ce sujet. Moïse n'a jamais demandé d'aller en Égypte, mais c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Voyez-vous, je crois que si le Saint-Esprit venait et me disait dans une vision, « Va dire à cette certaine personne qu'elle essaie d'avoir la victoire sur cette certaine chose et qu'elle n'y arrive pas. Elle fume, elle boit, elle ment, vole ou comme adultère, quoi que ce soit, ou elle a un esprit de convoitise. Va donc là-bas et dis, « Toi, esprit, sors de là, je libère ce captif. » Cela arriverait-il? Absolument. Oui, cela se produirait, assurément que cela arriverait. Mais si j'y vais d'après mes propres présomptions, or présumer signifie s'aventurer sans autorité, voyez-vous. Je vais là-bas pour aider cette personne, je ne fais que présumer que cela ira bien, voyez-vous. Je ne sais alors pas, Je peux invoquer sur eux le nom du Seigneur, je peux prier pour eux, faire tout ce que je désire. Si je pouvais faire comme je veux ce matin, je viens d'avoir une autre vue avec cette petite dame qui est assise dans cette chaise roulante. Pour venir à cette réunion aujourd'hui, ils ont dû avoir recours aux pompiers pour la sortir de chez elle, à Chicago. Et des gens vivent de l'autre côté de la rue et ne viennent pas aux réunions. Voyez-vous, que ferais-je? Si c'était en mon pouvoir, c'est en... J'ai l'autorité pour le faire, mais je dois attendre les ordres pour le faire. Voyez-vous, j'ai reçu de Dieu l'autorité pour le faire. Mais quand il donne des ordres, elle peut alors repartir chez elle guérie. Voyez-vous, je sais que c'est la vérité. Voyez-vous, je serai aussi prêt à mourir ce matin pour cela que pour toute autre chose. Voyez-vous, c'est la vérité. Mais premièrement, vous voyez, c'est tout ce... Personne, Jésus lui-même déclara, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous savons cela. Jean 5, 19. Très bien. Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Très bien. La vision que vous avez eue il y a des années du grand miracle qui devait se produire près de Corydon, dans l'Indiana, est-elle arrivée? J'ai regardé dans mon livre quand j'ai reçu ceci et j'ai mis un point d'interrogation. Il devait y avoir un temps où je devais faire attention à l'endroit où se trouvent ces cèdres, juste quand vous descendez la colline là-bas de l'autre côté en allant vers Corydon. Après avoir quitté le sommet de la colline à New Albany, je devais faire attention en passant près de ces cèdres à un horrible accident dans lequel je me trouverais. Et par la grâce de Dieu, j'y échappais quand une jeune fille qui buvait du whisky à la bouteille fut tuée. Sa gorge fut sectionnée à cet endroit par la bouteille qu'elle avait dans la bouche. C'était une fille de 16 ans, et je me serais trouvé à cet endroit-là, à ce moment-là. Voyez-vous, c'était peut-être ce dont vous parliez. J'ai lu cela. Et aussi, quand j'ai eu cette réunion chez frère B. Blossom, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être John G. Carter. Voyez-vous, il y a eu un autre qui est arrivé là. Il y en a eu 4 ou 5 là-dedans, et je n'ai rien vu qui ne soit arrivé. Si la personne qui a écrit ceci réécrivait en me disant ce que j'ai dit à ce moment-là, je regarderai alors. Voyez-vous, si vous me dites simplement ce que j'ai dit au sujet de la vision, parce que j'ai remarqué dans la vision-là les choses que j'avais inscrites dans le livre, et voici où c'est arrivé comme ceci. Je n'avais à ma connaissance rien d'inscrit de particulier en dehors de cela. Il y a aussi une autre chose, c'était la conversion cette fois-là de Omar Price, là-bas, lorsqu'il était si critique à mon sujet. Et comme vous le savez, il est venu au tabernacle et fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Oh, il m'a combattu si fort à ce sujet. Et je suis resté avec lui pendant la nuit. J'ai simplement continué à l'aimer et je suis resté là comme auparavant. Mais il est finalement venu parce que le Seigneur m'avait dit qu'il viendrait. Et ainsi, je m'en suis simplement tenu à ça. Voyez-vous, c'est pareil avec le petit prédicateur qui est assis maintenant derrière moi. Je suis allé une fois à Clarksville pour discuter avec lui et parler pour lui dans cette église méthodiste. Il était méthodiste de part en part, vous voyez ce que je veux dire. Je suis revenu ici et j'ai dit, un jour je le baptiserai au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je l'ai fait. Il s'agit de frère Neville. Est-ce faux pour moi de tenir un institut de beauté? Je suis esthéticienne et je ne crois pas que des chrétiennes doivent se couper les cheveux. Toutefois, je coupe les cheveux des autres et je les T-E-I-N-S, teint. Je crois que ça veut dire colorer, n'est-ce pas? Je les colore aussi. Chère sœur, je ne saurais que vous dire. Écoutez, je ne peux rien dire à propos de femmes qui se colorent les cheveux. Je n'ai pas de passage de l'Écriture là contre. Je peux seulement rester avec l'Écriture. Voyez-vous, l'Écriture ne dit pas qu'elles ne doivent pas le faire. L'Écriture dit qu'elles doivent avoir de longs cheveux, et après cela, je ne sais pas où aller. Voyez-vous, je ne sais rien à ce sujet. Un prédicateur, qui je sais est présent ici quelque part, un de mes chers amis, et moi nous parlions ensemble l'autre jour, alors que nous dînions au Blue Boar. Il me dit, « Ma femme a un peu honte de venir devant vous. » C'est une petite dame charmante et très pieuse. Elle est grand-mère, mais elle est vraiment très gentille. Ma femme était prise d'elle, et je pense que c'est une vraie, vraie femme. Je ne sais pas si elle est ici, mais je pense que oui. Je pense que son mari est ici. Elle m'a dit, elle a laissé croître ses cheveux après vous avoir entendu prêcher et avoir vu que c'était juste. Mais elle s'est eu coloré les cheveux, elle essaie de son mieux pour faire disparaître cette couleur avant de s'approcher de l'endroit où vous êtes. Maintenant, Regardez, ma chère sœur, je respecte grandement cela. J'ai de l'estime pour une femme qui fait cela, car certaines femmes viennent et arrangent leurs cheveux n'importe comment, ou elles vous crachent sur les pieds et marchent en se montrant arrogantes et en n'ayant aucun respect du tout. Souvenez-vous que Jésus a dit, « Ce que vous faites à ceci, c'est à moi que vous le faites. » Voyez-vous, je respecte cela en vous et Dieu vous bénira pour cela. Mes sœurs, au sujet de la coloration des cheveux ou quelque chose comme cela, je ne sais pas. Je ne peux pas soutenir cela par l'Écriture. Ainsi, c'est à vous de décider. Voyez-vous, si vous voulez le faire, c'est parfaitement en ordre avec moi. Autant que je sache, l'Église n'a pas cette coutume. Si vous voulez, pour tout ce qui n'est pas dans cette Bible, eh bien, c'est simplement à vous de décider. Vous voyez, mais je vous donnerai mon conseil. Vous voyez, et autant que je sache, vous savez, c'est la nature d'une femme de vouloir être jolie. Elle est censée être ainsi. Vous savez, dans toutes les espèces qui existent, le mâle est le plus beau, à l'exception de la race humaine. Prenez n'importe quel oiseau ou bovidé, prenez le bétail, lequel est le plus beau, la vieille vache aux cornes recourbées ou le gros taureau? Prenez les cerfs, lequel est le plus beau, la petite daine ou le mâle? Prenez les élans, lequel est le plus beau, le mâle ou la femelle? Les orignaux, ce que vous voudrez, prenez les oiseaux, prenez les poules, le coq ou la poule, prenez les oiseaux. Le grand et beau cardinal ou la petite femelle tachetée qui reste sur le nid et couvre ses œufs. Voyez-vous, dans tout, c'est le mâle qui est le plus beau, à l'exception de la femelle des humains. Pourquoi elle produisit la chute? Satan l'a choisie à ce moment-là et la beauté vient du diable. Voyez-vous, Satan était l'ange le plus beau, il était le chérubin qui couvrait de son ombre. Regardez comme les femmes changent par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Combien se souviennent de Pearl? On lui a à propos de Pearl O'Brien. Faites voir votre main, certains parmi vous qui êtes d'un certain âge. Bien sûr, voyez-vous, elle était censée être la plus belle femme d'Amérique. Eh bien, n'importe quelle petite adolescente sur la rue serait aujourd'hui deux fois plus jolie qu'elle. Pourquoi? C'est exactement ce qu'a dit la Bible. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est une bande de renégats qui envoya le déluge sur la terre et qui fit que Dieu détruisit toute la race humaine. Voyez-vous? Exactement. Et aujourd'hui, tout est basé sur Hollywood, la beauté et les choses comme cela. Alors que la beauté, c'est la chose secrète du cœur, voyez-vous? Et non pas l'apparence extérieure. Ayez non cette parure extérieure, mais la parure intérieure d'un esprit doux et paisible. Voilà le chrétien. Ainsi, à propos de votre question, sœur, je ne sais pas exactement ce qu'il faut vous dire. Eh bien, je peux m'arrêter maintenant ou alors prendre encore 30 minutes. Est-ce que 30 minutes... Combien sont prêts à rester encore 30 minutes? Et alors, cela nous donnera davantage de temps ce soir. Bon, je vais alors vraiment me dépêcher. Frère Branham, est-ce que le passage de 1 Timothée 2,9 signifie qu'une femme ne peut pas tresser ses cheveux? Est-ce que broided hair signifie cheveux tressés? Maintenant, sœur, regardez, je suis content que cela suive. Je ne l'ai jamais mis là, mais ça suivait simplement, ce qui est bien. Remarquez dans ce temps-là, des cheveux tressés étaient le signe d'une femme qui faisait le trottoir. C'est ce qu'elle faisait, elle tressait ses cheveux. Et Paul dit aux chrétiens, cette parure qu'elle ne consiste pas en des cheveux tressés, car en ayant des cheveux tressés, elle ressemblait au reste du monde. Or, vous n'êtes pas censé ressembler au monde ou agir comme le monde. Voyez-vous, les femmes sont censées être différentes en cela. Voyez-vous, non, les cheveux tressés, aujourd'hui les cheveux tressés sont jolis. Et c'est bien loin de la mode du monde. Vous avez vu les femmes et la façon dont elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui. Arrangez vos cheveux n'importe comment, mais ne ressemblez simplement pas au monde. Voyez-vous, ne ressemblez pas ou ne vous habillez pas comme lui. Si elles portent des shorts, portez une robe. Si elles se coupent les cheveux et les font boucler, etc., laissez simplement les vôtres tranquilles. Voyez-vous? La question était, est-ce que broided signifie tressé? Oui, c'est vrai. Et maintenant, dans la rue, or j'ai fait des recherches pour savoir ce que voulait dire des cheveux tressés il y a des années. Voyez-vous, en fait, les femmes du temps passé tiraient simplement leurs cheveux en arrière et les attachaient, un peu comme le faisant une queue de cheval aujourd'hui. Elles portaient des robes ainsi, mais les femmes de la rue prenaient leurs cheveux et les tressaient sur leur tête en y mettant des fleurs et des choses comme cela. C'était en quelque sorte la flappeuse ou fille de la rue. Or, c'est également à leur habillement que nous pouvons reconnaître les prostituées aujourd'hui. Je dis flappeux pour prostituées parce que vous savez que je suis un homme âgé, et c'est ainsi qu'on les appelait de mon temps. Comment les appelle-t-on aujourd'hui? Oh, je ne sais pas, des poulettes ou quelque chose comme cela. Enfin, peu importe, Donnez-leur n'importe quel nom, elles aiment cela. Frère Branham, vous avez dit sur l'une des bandes que Noé a sauvé les membres de sa famille ou de sa maison. Cela veut-il dire qu'une mère peut avoir la même foi pour sa maison? Et cela veut-il dire que chaque membre de la famille sera sauvé si nous le croyons? Vous devez prendre garde maintenant à la manière dont je réponds ceci. Voyez-vous, premièrement, vous avez dit sur l'une de vos bandes que Noé a sauvé les membres de sa maison. Pourquoi? Parce qu'ils crurent. C'est cela, parce qu'ils crurent son message. Cela veut-il dire qu'une mère peut avoir la même foi pour sa maison? Oui, sœur. Je peux voir le cœur d'une petite mère qui pleure pour les siens. Et cela veut-il dire que chaque membre de la famille sera sauvé si nous le croyons? Oui, s'il l'accepte, c'est juste. Rappelez-vous du geôlier philippien, croyez à la foi pour vous. Si vous avez suffisamment de foi pour votre propre salut, ne pouvez-vous pas avoir cette même foi qui alors agira sur les vôtres? Qu'est-ce que la foi? C'est une force invisible. Voyez-vous, qu'est-ce? C'est un esprit. Le Saint-Esprit amène la foi. Voyez-vous, c'est une force invisible. Pourquoi imposerais-je les mains aux malades? Si je peux obtenir ce contact personnel avec l'esprit qui est là dans cette personne, quelque chose va arriver. Voyez-vous, ici se trouve le Saint-Esprit. Il révélera les secrets du cœur. Il fera exactement ce qu'il a dit qu'il ferait dans les derniers jours. Les gens croient cela. Ils le regardent et disent, « Oui, monsieur, je crois cela. » Maintenant, si je ne deviens pas trop ordinaire pour vous, voyez-vous, cela devient quelque chose d'ordinaire et que vous passiez un jour par la ligne de prière et que vous y repassiez le jour suivant, vous ne faites que jouer à la chance. Voyez-vous, premièrement, vous n'y croyez pas. Parce qu'aussitôt que vous y croyez vraiment, cette femme dit, si je peux toucher son vêtement, je serai entièrement guérie. Elle l'a fait, voyez-vous. Elle n'a pas dit, laissez-moi essayer de nouveau. Elle crut cela, voyez-vous. C'est maintenant, si vous êtes prête à croire avec tout ce qui est en vous, pour votre famille. Regardez par exemple, qu'est-ce qui me motive? Quelle est cette force dans mon bras? Ce n'est certainement pas mon muscle, c'est mon esprit. Assurément, enlevez cet esprit, et que va faire le muscle? Il est tout ce qu'il y a de plus mort. Il pourrira. Mais c'est l'esprit qui fortifie. Regardez le petit Samson. Beaucoup ont vu des porcs qui semblaient pouvoir se trouver ici entre ces deux poteaux. Or, un homme grand comme ça pourrait prendre un lion et le déchirer, frère Jackson. Si un lion sautait sur un homme comme ça, qui a des épaules larges comme une porte de grange, oh, bien sûr que ce ne serait pas un mystère. Mais le mystère, c'est qu'il n'était qu'un petit gringalet, aux cheveux bouclés, un petit bout d'homme, efféminé. Le petit garçon à maman, avec cette petite tresse qui lui tombait dans le dos comme une fille. Si vous remarquez, il était tout ce qu'il y a de plus impuissant jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur vienne sur lui. Lorsque ce lion s'approcha en grognant, l'Esprit du Seigneur vint sur lui et Samson le déchira. Ce n'était pas Samson, c'était l'Esprit du Seigneur. Maintenant, comment va-t-il prendre la mâchoire d'un mulet qui a blanchi là dans ce désert? Et les caches de ces philistins étaient faites d'airain d'environ 2,5 cm d'épais. Oh, si vous preniez cette mâchoire et que vous la frappiez contre l'un de ses casques, elle se casserait en 1000 morceaux, vous le savez. Lorsqu'il toucherait cette vieille mâchoire sèche, mais regardez, il se tint là avec cette mâchoire dans sa main, et tua 1000 philistins. Les autres s'enfuirent vers les rochers. Il leur dit, « Alors, vous en voulez aussi un peu ?» La tenant toujours dans sa main. Qu'était-ce? L'Esprit du Seigneur était venu sur lui, voyez-vous. Ainsi, c'est l'Esprit du Seigneur. Et quand vous avez l'Esprit du Seigneur en vous, pour croire pour votre propre salut, placez cela sur votre famille. Dites, je les réclame, au nom de Jésus-Christ, je les réclame. Oh Dieu, je ne sais pas comment tu vas lui faire faire cela, à elle ou à lui, mais je le crois. Je crois, Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. Réclamez-le et observez ce qui arrive. Cela marchera. Avant que Jésus vienne, l'épouse aura-t-elle toute la puissance du Saint-Esprit pour accomplir des miracles, ressusciter des morts, etc., dans la dernière pluie? Ou est-ce la dernière pluie pour les 144 000 juifs? Tous les serviteurs de Dieu auront-ils ceci? Ou attendons-nous simplement sa venue? Oui. Voyez-vous, mon ami, je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas un théologien. C'est pourquoi je dois enseigner tout ce que je sais au sujet de la Bible à partir d'ombres et de types. Vous m'appelez un peu un typologue. Mais si je regarde sur ce mur, alors que je ne me suis jamais vu, et que je vois que j'ai une tête, des oreilles, des mains, j'ai déjà une idée de l'apparence que j'aurai si une fois je me vois. Voyez-vous, si je vois ma réflexion dans un miroir, je sais quelle apparence j'aurai si je pouvais sortir de moi-même et me regarder. Or, c'est ainsi que je considère la Bible. Toutes ces choses, dit Romains 26, sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous pouvons regarder en arrière et voir ce que c'était, comme la lune qui réfléchit le soleil. Nous savons ce que sera le soleil quand, si nous n'avons jamais vu le soleil, nous pouvons voir la lune et voir ce sera plus grand que cela. Eh bien, lorsque vous voyez ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, c'est simplement une réflexion de ce qui arrive dans le Nouveau. Or, je crois de tout mon cœur que nous sommes, ou que ces jours, si nous ne sommes pas cela, quelqu'un l'est. Il doit en être ainsi. Le temps est arrivé au bout. Nous sommes à la fin. Dieu créa le monde en 6000 ans, et le 7e mille ans, il se reposa. Il a dit qu'un homme n'arrivera jamais à vivre aussi longtemps que ça, une année, ou un jour. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, ou plutôt Methuselah, fut l'homme qui a vécu le plus longtemps dans la Bible, et il avait 969 ans. Or, il n'a jamais vécu ces 1000 ans, mais l'homme qui vivra à travers le millénium, soit 1000 ans, pour montrer que le prix a été payé. L'homme vit éternellement, le jour est terminé, le temps est terminé, ils sont de l'éternité. À propos, j'ai reçu tellement de lettres concernant mon message il y a 2 ou 3 dimanches sur la demeure future de l'épouse et de l'époux. Cela a sûrement atteint son but quelque part, pour un bon nombre d'entre eux. Cela fut aussi le cas pour moi. Je n'ai pas pu l'oublier. Maintenant remarquez, à propos de ci, voyez-vous, Abraham a vu, or comme il traita avec Abraham, il l'a aussi fait avec sa semence. Un de ces jours, que je reviendrai, je veux approfondir un peu plus cela et vous montrer exactement les étapes de la vie d'Abraham. Cela concorde exactement avec Luther, Wesley, etc. jusqu'à aujourd'hui. Je vous montrerai exactement de quelle manière il a traité avec les églises comme il a fait avec Abraham. Je vous montrerai comment il est apparu et comment, lorsqu'il lui confirma l'alliance sous le sang immolé, c'était l'âge de Philadelphie. Oui, monsieur, c'était l'âge du sang. Luther, l'âge wesleyen. Mais alors, observez l'âge pentecôtiste. Après qu'il soit venu là, il fit la promesse de El Shaddéa. Nourris-toi en prenant mon sein. La question est, peux-tu prendre le sein? Cela fut présenté aux pentecôtistes, voyez-vous. Pouvez-vous prendre le sein? Mais ils ne le firent pas. Ils saisirent le sein de la dénomination d'où ils sont sortis. Mais alors la semence, la véritable semence, est venue pour boire à ce sein. Et quel fut le dernier signe qu'ils reçurent avant la venue de ce fils promis qu'ils avaient attendu durant toutes ces années? C'était Dieu, debout sous la forme d'un homme, qui pouvait discerner les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Sarah est dans l'église, représentant l'église, qui pouvait discerner les pensées qui étaient dans l'église, qui se trouvaient même derrière lui. Est-ce exact? Et immédiatement après cela, elle fut changée en une jeune femme et lui en un jeune homme. Et Isaac, le fils promis, fut amené sur la scène. Je crois que vous êtes en train de voir la dernière chose qui arrivera à l'église avant l'enlèvement. Exactement, je le crois. La pluie est terminée. Lisez simplement les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse et vous verrez ce qui est promis à l'Église. C'est ce qui est promis à l'Église, là, dans les âges de l'Église. Vous avez remarqué l'autre jour, lorsque nous avons commencé sur ces trompettes, le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas pour maintenant, voyez-vous? Maintenant, la dernière pluie, les 144 000 Juifs, non, ce n'est pas, ils ne vont pas. C'est quand Élie et Moïse, c'est là que les miracles arrivent. Les choses auxquelles les gens se sont attendus, les miracles auxquels les pentecôtistes se sont attendus, c'est là, à travers eux, qu'ils arriveront. Voyez-vous, c'est à travers Élie et Moïse. Ils frappent la terre de malédiction si souvent qu'ils le veulent. Ils ferment les cieux afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Et Dieu prendra position et combattra pour eux, comme il l'a déjà fait. Et les fera sortir par une main puissante, exactement comme il l'a fait en Égypte. Voyez-vous, il les fera sortir de ces ismes du monde. Il fera cela, mais ce n'est pas. Nous devons simplement attendre la venue du Seigneur. Attendez simplement. Gardez vos lampes nettoyées et toutes pleines d'huile. Priez chaque heure, non pas chaque jour, mais chaque heure. Continuez simplement à être prêts. Soyez prêts, soyez doux et veillés. Oh, nous guettons la venue de ce joyeux jour du millénium, quand notre Seigneur béni viendra et enlèvera son épouse qui attend. Oh là là, oh, mon cœur est rempli d'enlèvement, alors que je travaille, veille et prie, car notre Seigneur va revenir sur la terre. C'est cela, c'est l'espérance de l'Église en cette heure. Est-ce que le nom de Jésus-Christ est valable pour le baptême, ou doit-il être fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? L'un ou l'autre. Je prends Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, parce que je pense qu'il est notre Seigneur. maintenant simplement le nom de Jésus, dans lequel certains de nos frères baptisent, je ne suis pas d'accord, voyez-vous, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis appelés Jésus, beaucoup d'amis prédicateurs au Mexique, en Italie, etc. Ils les appellent Jésus, et ainsi Jésus n'est pas suffisant. Il est né Christ, le Sauveur, comme il est né le Sauveur et Christ, loin. Et 8 jours plus tard, il reçut le nom de Jésus. Voyez-vous? Alors, il était le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il était. Très bien. Frère Branham, le Seigneur vous permettrait-il de nous instruire présentement sur la question du mariage et du divorce? Question. Un homme peut-il épouser une femme, puis se divorcer d'avec elle, et ensuite en épouser une autre? Si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous les deux adultère? Vous avez mentionné que cela rejoindrait la semence du serpent. Comment cela? Maintenant, voici une des questions les plus perfides que nous ayons dans ces piles. Et c'est celle qu'il a pu contester dans le monde aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi, et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment cette Église et sur cette bande ce matin la chose correcte à propos du mariage et du divorce, cela démolirait chaque Église du pays qui l'écouterait. Voyez-vous, c'est vrai. Ainsi, maintenant, viens à mon secours. Ici se trouve la Bible devant moi, et j'ai pour cette question le « Ainsi dit le Seigneur ». Les deux côtés qui argumentent ont tort. À la fois ceux qui remarient les mariés, etc., ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font. Mais entre deux se trouve la vérité au milieu de la route. Je ne veux pas. Je vais faire une bande afin que si quelque chose m'arrive, les frères puissent ensuite la passer aux églises après mon départ. Voyez-vous? Mais je veux faire une bande là-dessus et vous montrer simplement où cela se trouve. Mais tant que je ne me sens pas conduit par le Seigneur, je ne dirai rien sujet. Je sens que pour ces choses, je dois être conduit par le Seigneur, sinon je ferai plus de mal que de bien. Voyez-vous? Maintenant, je veux que vous remarquiez ceci. Question, un homme peut-il épouser une femme, puis se divorcer avec elle, et ensuite en épouser une autre? Et si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous les deux adultère? Eh bien, mon ami, je ne veux pas blesser vos sentiments, mais c'est la vérité. Jésus a dit, quiconque épouse celle qui est répudiée, commet adultère. Voyez-vous? Maintenant, je ne veux pas le dire, mais c'est la vérité. Vous avez mentionné que ceci rejoindrait la semence du serpent. Voyez-vous, je ne me souviens pas l'avoir mentionné, mais je l'ai probablement fait quelque part ou dit quelque chose à ce sujet. Comme l'autre jour, j'ai mélangé quelque chose. J'ai trouvé que je l'ai entendu et je l'ai saisi à ce moment-là. C'est sur la bande et je vais probablement en entendre parler. Alors que je parlais des 7 trompettes, j'ai dit que c'était 7 trompettes. Je me référais à la fête de Pentecôte. De la fête de Pentecôte jusqu'aux trompettes, il y avait 7 sabbats. Les 7 sabbats se trouvaient entre la fête de la Pâque et celle de la Pentecôte, vous voyez. Ce qui faisait les 50 jours, voyez-vous. Mais la chose à laquelle je me référais, parce que j'ai dit, cela représente les 7 âges de l'Église. Sur cette bande, si un jour vous l'avez, sur cette bande, cela devrait être que le 7e mois après cela amena la fête des trompettes, ce qui représentait les 7 âges de l'Église, 7 mois et non pas 7 sabbats. 7 sabbats se rapportaient à... Je l'ai expliqué là-dessus. J'ai ainsi dit les 7 sabbats, mais j'ai ensuite continué sur cette même pensée, alors que c'est le 7e mois après la fête de la Pâque ou la fête de Pentecôte. Alors vient la fête après que la gerbe ait été apportée et agitée. Voyez alors, souvenez-vous que là, la gerbe se transforme après ce moment-là en un pain. Voyez-vous, quand la gerbe de... Une gerbe, puis tout entre dans un pain. Oh, c'est là un grand enseignement. Je n'en ai pas touché le pourtour, mais s'il arrive que vous saisissiez cela sur la bande, souvenez-vous de regarder dans la Bible. Vous voyez, c'est 7 mois après cela. Comptez 7 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ce serait juillet, 7 mois, ce qui représente intégralement les 7 âges de l'Église. Un prédicateur va peut-être relever cela et alors vous l'aurez. Voyez-vous cela? Très bien. Maintenant, à propos de ceci, laissons simplement, voici ce que je dis. Laissez-moi dire ceci, non pas le Seigneur, mais laissez-moi le dire. Si vous êtes actuellement marié et que vous êtes les deux sauvés et remplis du Saint-Esprit, que vous aimez et que vous avez de petits-enfants, maintenant souvenez-vous, c'est moi, non pas le Seigneur, voyez-vous. Allez et vivez ensemble. Soyez heureux, parce que de toute façon, vous ne pouviez pas vivre avec vos premières épouses, sinon vous n'auriez pas épousé celle-ci. Si donc vous quittez celle-ci et que vous retournez à votre première épouse, vous faites pire que vous l'avez fait au commencement, au premier lieu, voyez-vous. Ainsi, vous voyez, vous êtes dans le pétrin. Il n'y a pas moyen de sortir. Il n'y aurait en vérité qu'un moyen que je peux indiquer d'après la Bible, c'est que chacun de vous viviez seul, voyez-vous. Mais c'est la seule façon que je peux indiquer maintenant. Mais il y a autre chose là-dedans que je ne peux pas vous dire maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je dis, non pas moi, mais le Seigneur, continue ainsi. Si une fois vous revenez à la bande, et un jour, si jamais j'apporte cela, souvenez-vous de la manière dont je l'ai dit. Si vous étiez sage, vous auriez pu le saisir, voyez-vous, de la manière dont je l'ai dit, et alors vous le sauriez. Frère Branham, devrions-nous aller dans les autres églises, même si elles ne sont pas d'accord avec vous? Bien sûr. Oui. Jésus l'a fait, alors qu'il n'était pas d'accord avec lui. Allez-y. Nous remarquons qu'il est dit ici, devrions-nous aller dans une autre église qui n'est pas d'accord avec vous? Bien sûr, je ne suis pas le seul galet sur la plage, vous savez, il y a partout d'autres hommes pieux. J'espère que je suis l'un d'entre eux, voyez-vous. Mais ne venez jamais ici. Je fus interpellé à propos de quelque chose de semblable l'autre jour. Un groupe en Arizona a attiré mon attention là-dessus, voyez-vous. Un groupe de pasteurs m'a dit, la seule chose que nous avons contre vous, frère Branham, une des choses, c'est que les gens qui vont là avec vous, nous ne pouvons pas les amener à aller à l'église quelque part. Ils ont des enfants, etc., et ne veulent pas aller à l'église. Or, nous leur avons dit qu'ils étaient les bienvenus dans notre église. Maintenant, je sais qu'ils font pression sur vous, pour que vous vous joigniez à eux. Mais vous n'avez pas à vous joindre. Cependant, mettez ces enfants à l'école du dimanche quelque part. Et vous, allez à l'église, ne restez pas à la maison, vous n'allez pas à la pêche, à la chasse, etc. le dimanche. Vous dites, oh, je ne suis pas un légaliste. Eh bien, vous feriez mieux d'être ainsi quelque temps, car de cette façon, vous déshonorez la résurrection de Christ. Allez à l'église quelque part. Si j'allais à une certaine église où je sais qu'il n'y a qu'une chose, que ces gens disent que je crois. Ils disent qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils disent cela, j'en doute, j'irai les entendre le dire. Disons peut-être que c'est cette église, et peut-être que la suivante serait quelque peu semblable aux baptistes. Ils disent, oui, je crois que vous devez avoir une expérience. Je serai d'accord avec eux à ce sujet. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et je crois que vous devez avoir une expérience. Très bien. Puis il y a peut-être les assemblées de Dieu. Or, ils croient, voyez-vous, maintenant je peux manger environ 3 ou 4 tranches de pain avec eux, car ils peuvent croire. Par exemple, l'autre jour, cette même personne m'a téléphoné pour savoir ce qui en est à ce sujet. Il m'a dit, vous avez dit, ce prédicateur là-bas, cet homme là-bas qui voulait discuter de cela, quel pauvre frère, il est dans une telle erreur. On lui a dit, eh bien, assemblée de Dieu, frère Branham est contre vous. Si un prédicateur des assemblées obtient une fois cette bande, je veux que vous me disiez à quel moment j'étais contre les hommes des assemblées de Dieu, ou n'importe quel autre homme. Pourquoi cela? Alors que vos propres quartiers généraux admettent que je vous ai envoyé 750 000 de mes enfants que j'ai amenés à Christ. Comment suis-je contre les assemblées de Dieu? Pourquoi suis-je contre les unitaires? Je ne suis contre aucun unitaire, assemblée de Dieu, église de Dieu, ou quiconque. Je suis contre chaque système qui sépare les hommes. Regardez, j'ai envoyé aux assemblées, d'après leurs propres calculs, 750 000 de mes propres enfants. S'ils sont si mauvais, pourquoi l'aurais-je fait? Pourquoi? Je pense que dans le pays, c'est ce qu'il y a de mieux à faire que de les envoyer soit chez les unitaires, soit chez certains de la foi pentecôtiste. Parce qu'ils croient à la guérison divine, ils croient au surnaturel, ils croient au baptême du Saint-Esprit. C'est le mieux. Je ne veux pas tous les amener ici. Ils sont partout dans le monde. J'ai des amis partout dans le monde, des enfants que j'ai amenés à Christ. Je les enverrai à de la meilleure. M'avez-vous déjà entendu? Lorsque je fais un appel à l'autel, je dis, quand je les fais s'avancer et qu'ils reçoivent leur salut, je dis, maintenant, allez dans une bonne église du plein évangile et trouvez-vous une église. Combien m'ont-ils déjà entendu cela? Bien sûr, bien sûr. Eh bien, alors pourquoi les enverrais-je là? Serais-je un hypocrite en envoyant mes propres enfants à la mort? Loin de moi la pensée. Non, monsieur. Si vous ne pouvez pas venir ici au tabernacle, trouvez une église quelque part et allez-y. Vous n'avez pas besoin de prendre tout ce qu'ils font. La partie du pain qu'ils servent, vous la prenez. Lorsqu'ils ont l'ail, eh bien, vous le laissez simplement. Voyez-vous, c'est vrai. Je ne peux pas les forcer à le faire, mais c'est exactement. Bien sûr, allez à l'église. Lorsque quelque part la porte de l'église s'ouvre, vous y allez aussi vite que possible. S'ils ne croient pas, eh bien, vous n'avez pas besoin de participer. Ne vous joignez pas à eux. Ne vous joignez à aucune de ces églises. Mais allez-y, fraternisez avec eux. Comment savez-vous que ce n'est pas le Seigneur? Il a dit qu'il ferait concourir toutes choses pour le bien. Et il y a peut-être là une âme qui devrait être sauvé, et vous pouvez leur apporter la lumière. Voyez-vous, allez-y, n'y allez pas avec arrogance, allez-y avec douceur, et les gens commenceront à dire, quel chrétien c'est, et quel couple chrétien, ou garçon, ou fille chrétien c'est. Oh, j'aimerais cela. Regardez, ils agissent vraiment comme s'ils avaient quelque chose. Voyez-vous, ils diront alors, qu'est-ce? Eh bien, voilà, alors dites-leur. Mais soyez simplement salés, elles deviendront assoiffées. Cher frère Branham, croyez-vous que les signes devraient suivre tous ceux qui ont le Saint-Esprit? Jésus l'a dit dans Marc 16. Si c'est ainsi, qu'en est-il des gens qui croient le message avec tout ce qui est en eux et qui n'ont cependant pas ces signes? Sont-ils des incroyants ou ont-ils besoin du Saint-Esprit? Dans ce cas, veuillez nous instruire aujourd'hui sur la façon de recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons que vous êtes le porte-parole de Dieu pour notre temps, votre frère. Merci, mon frère, de me considérer comme votre frère. Et je pense que c'est une très bonne question. Oui, mes amis, ce n'est pas tout à fait ce que cela devrait. J'aimerais traiter de cela un peu plus longuement, si possible. Voyez-vous, ce n'est pas ce que cela devrait. Regardez, certains parmi vous, voyez-vous, quand vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, sans avoir une expérience lorsque cela arrive. Maintenant, si vous croyez chaque brin de la parole, comme vous dites que vous en croyez chaque brin, alors la parole est là, attendant que le Saint-Esprit la mette au travail. Mais il faut pour cela qu'on allume la bougie. Voici la bougie avec la mèche dedans, ainsi que le suif et tout ce que cette bougie doit avoir. Mais tant que le feu ne vient pas sur elle, elle ne produira aucune lumière. Peu importe combien la bougie est parfaite et combien elle brûlera parfaitement, elle doit être allumée, et alors elle brûlera. Et quand vous croyez et que vous êtes composé des instructions indiquant ce qu'est le Saint-Esprit, soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et quels sont les fruits qu'il porte, tant que le Saint-Esprit, avec une expérience ardente, ne descend pas allumer cette bougie, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous, vous devez avoir l'expérience pour avoir le Saint-Esprit. J'appartiens à un syndicat ouvrier. Est-ce faux pour un chrétien? La parole dit, ne jure pas, ne jure pas. Or, nous devons jurer pour montrer notre soutien à la constitution du syndicat ouvrier. Je n'ai pris aucune part active depuis que je suis devenu chrétien, mais je paye toujours mes cotisations. Le nom de Judas Iscariote fut-il effacé du livre de vie de l'agneau ou était-il sur le livre de vie de l'agneau? Très bien. Concernant le syndicat ouvrier, je sais que vous travaillez. Vous, frères, vous avez des syndicats ouvriers auxquels vous, si vous les travaillez, vous devez y appartenir. C'est exact, vous devez le faire. Mais faites attention, voyez-vous, parce que cela va passer du travail à la religion un séjour. Voyez-vous, maintenant souvenez-vous, c'est le signe précurseur montrant que tout va se transformer en union. Vous ne pouvez travailler, ils ne vous laisseront pas travailler, vous êtes un traître, si vous n'appartenez pas à ce syndicat. Maintenant, souvenez-vous, vous jeunes gens, souvenez-vous de ce que frère Branham a dit, et puissent mes paroles être gravées avec une plume de fer dans une montagne d'acier. Ainsi dit le Seigneur, cette même chose arrivera dans la religion, vous appartiendrez à une certaine dénomination, sinon vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Ainsi, faites très attention, frère, ne faites ceci que pour travailler. Surveillez cela, c'est un avertissement. Le nom de Judas Iscariote fut-il effacé du livre de vie de l'agneau, ou s'est-il une fois trouvé sur celui-ci? Oui, il s'y trouvait et fut effacé, voyez-vous. Parce que dans Matthieu, au chapitre 10, Jésus appela Judas et tous les autres et leur donna la puissance sur les esprits impurs. Ils partirent en chassant les démons et Jésus dit, « J'ai même vu Satan tomber du ciel, est-ce juste ?» Et lorsqu'ils revinrent tous ses disciples ensemble, ils étaient dans la joie, mais il leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Voyez-vous, c'est vrai, et Judas était là avec eux. Voyez-vous? Ainsi, souvenez-vous, au jugement, observez, au siège du jugement, le jugement commençait, les livres étaient ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et chaque homme fut jugé ainsi. Maintenant, voilà, à propos de la question d'il y a quelques minutes, vous voyez, au siège du jugement, Jésus, l'Église, l'épouse, fut enlevée, elle partit dans la gloire, il fut marié, puis revint sur la terre et vécut 1000 ans. À la fin des 1000 ans, Satan fut libéré de sa prison, où un ange l'a tenu lié par une chaîne, non pas une chaîne comme on s'en sert pour fixer des troncs, mais une chaîne de circonstances, car tous ses sujets étaient en enfer, tous ceux qui furent ressuscités sur la terre étaient rachetés. Et Jésus était avec eux. Il ne pouvait agir sur rien, mais de la fin des 1000 ans à la seconde résurrection. Heureux et saint celui qui a la part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur lui. Mais remarquez, dans cette seconde résurrection, quand ils apparaissent, alors Satan est libéré de sa prison pour une petite saison. Puis le jugement commence. Maintenant observez, Jésus avec l'épouse, en tant que roi et reine, s'est assis sur le trône pour le jugement du trône blanc. Et les livres furent ouverts, les livres des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert, c'était le livre de vie. Et chacun fut ainsi jugé par l'épouse. Ne savez-vous pas, amenant ces petites affaires devant la loi, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez-vous? Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer qui est le groupe d'Apocalypse 24? Sont-ils une partie de l'épouse du passé ou de celle du futur? Ils sont l'épouse entière, à la fois du passé et du présent. Ils sont l'épouse entière parce qu'ils vivent dans le millénium. Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît? Eh bien, c'est exactement la même question. Apocalypse 24. Sont-ce les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Christ et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur... Oh, je vois où ils veulent en venir maintenant. Ceci vient de m'être tendu. Étant donné qu'il est dit qu'ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ainsi, c'est troublant à cause de la persécution de l'épouse, mais qui d'autre pourrait-il être et régner avec Christ pendant 1000 ans? Seraient-ils les 144 000? Non, non, c'est l'épouse. Maintenant, souvenez-vous, vous dites, alors qu'ils sont décapités à cause du témoignage, maintenant vous dites, à cause du ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Bien sûr, vous dites, la bête doit encore venir. La bête a toujours été là. La bête fut celle qui les envoya à l'époque dans les fosses aux lions et là-bas dans l'arène à Rome. C'était l'Antichrist. C'est à ce moment-là la bête établissant une forme de religion. Presque exactement comme un modèle. L'Église romaine fut sortie directement de la Bible et ensuite ils organisèrent la chose. En firent une institution et une Église universelle et tous ceux qui ne voulaient pas s'incliner là-devant devaient être détruits. Voyez-vous, c'était ainsi. Et ceux faisant partie du corps de cette époque, or le corps a grandi comme un arbre jusqu'à ce qu'il arrive à la tête, voyez-vous, et tous à la fois martyrs et persécutés, etc. Mais Jésus nous a donné la paix de ce côté de la rivière, de même qu'il l'a fait pour les tribus qui étaient là-bas, voyez-vous, ils ne traversèrent pas. Maintenant, que puis-je faire pour lui? Devrais-je continuer à, prendre soin de papa à la ferme? Que puis-je faire pour gagner de quoi vivre pour et l'assigner? Oui, mon frère, c'est écrit là. Je ne sais pas qui. Il est dit, frère Branham, cela commence simplement par « Que puis-je faire pour lui ?» C'est probablement un garçon à propos de son papa. Regardez, mon cher frère, heureux seriez-vous quand vous prendrez soin de votre papa, car votre papa a pris soin de vous alors que vous ne pouviez pas prendre soin de vous-même. Et le premier commandement avec une promesse, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voyez-vous? Oui, prenez soin de votre papa de n'importe quelle manière que vous pouvez. Veillez à ce qu'il reçoive le meilleur. Vous avez dit que Caïn était de la semence du serpent. Pourquoi Ève a-t-elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel? Ça y est, je ferai mieux d'attendre après dîner pour cette question. Oui, j'attendrai après dîner pour cela. Oh, cela va prendre un certain temps pour expliquer ça. Très bien. Cher frère Branham, voudriez-vous m'expliquer ce verset d'Ésaïe 2:2 ? Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Oui, je l'ai déjà fait, dimanche il y a de cela 2 semaines, voyez-vous ? La maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et toutes les nations y afflueront. Le gros, si vous avez la bande traitant de la demeure future de l'épouse et de l'époux, cela l'explique exactement ainsi. Oh là là! Je ferais mieux de m'arrêter tout de suite, parce que, oh là là, frère, nous n'arriverons jamais à prendre toutes celles qui sont ici. Frère Branham, voyons ce que c'est. Frère Branham, il est généralement cru par beaucoup de ceux qui suivent votre message que vous êtes le Messie de ce jour. Est-ce juste? Non, monsieur. Dites-nous franchement, frère Branham, vous semblez hésiter à vous faire connaître, et nous savons qu'avec un ministère comme Dieu vous a donné, vous devriez être identifié quelque part dans les Écritures. Numéro 2. Vous nous avez dit votre but en allant en Arizona la première fois. Vous nous en avez donné la raison et cela est arrivé. Mais vous ne nous avez pas dit pourquoi vous êtes retourné. Premièrement, je ne suis pas un messie. Voyez-vous, le messie est Jésus-Christ. Mais nous sommes des messiettes, chacun de nous. Le messie signifie loin. Et en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. En moi habite seulement une partie de son esprit, comme ce qui habite en vous. J'ai reçu un don pour connaître de petites choses et voir des choses d'avance. Cela ne fait pourtant de moi que votre frère. Je ne suis pas le Messie, je suis votre frère, voyez-vous, juste un berger du troupeau. Et si je vous disais que j'étais le Messie, je serais un menteur, voyez-vous, et je ne veux pas être un menteur. Maintenant, pourquoi suis-je allé en Arizona la première fois? Vous avez compris cela. Je suis allé au nom du Seigneur, parce que j'étais envoyé là-bas par une vision. J'y suis retourné la deuxième fois dans un but. Laissez simplement cela tranquille. Je sais pourquoi j'y suis allé. Je ne peux pas tout dire. Lorsque vous, le diable ne sait pas, ne peut pas le tirer de mon cœur. Si je le dis à haute voix, alors il peut prendre cela, mais il ne peut pas le prendre quand c'est de mon cœur. Si je dis, attendez jusqu'à cela arrive, souvenez-vous simplement, gardez cette bande. Je suis allé en Arizona dans un but. Veuillez bien me supporter, voyez-vous, faites simplement ce que je vous dis de faire, faites simplement comme je dis, voyez-vous. Frère Branham, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. J'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé aux gens de vendre chacune de leurs... Peut-être serait-il préférable que je laisse aussi celle-ci de côté. Voyons, eh bien, c'est déjà le moment terminé, nous prendrons peut-être ceci après dîner, mais je répondrai à celle-ci ou j'essaierai de mon mieux, je ne sais pas, on vient juste de me la remettre, voyez-vous. Billy m'en a apporté une poignée juste là à la porte, voyez-vous. J'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé aux gens de vendre chacune de leurs maisons et de vous suivre en Arizona, sinon ils ne se trouveraient pas dans l'enlèvement. Est-ce vrai? C'est un mensonge, voyez-vous. Où devrions-nous vendre nos maisons? Où avez-vous même dit ceci? Non, monsieur, je ne l'ai pas dit. Si j'ai fait quelque chose, c'était de conseiller aux gens de ne pas le faire. Non, non. Souvenez-vous. Souvenez-vous du songe de Juni Jackson, la fois où je suis allé là-bas. Juni a rêvé qu'il voyait ce... Combien se souviennent du rêve et de la façon dont le Seigneur en donna l'interprétation? Cette grande montagne sur laquelle nous nous tenions et les lettres délavées qu'il y avait là. J'essayais d'interpréter cela et je ne le pouvais pas. Puis j'interprétais cela pour eux. Après que j'ai eu tout interprété, alors je tendis la main et je saisis... Dans son songe, une sorte de barre, et je coupais le fait de la montagne, et je regardais là-dedans, et tout était blanc comme de la neige, comme du marbre, mais rien n'est écrit là-dessus. Et je dis, restez tous ici, et regardez maintenant ceci, pendant que je vais là-bas. Et Johnny, tous sont montés, tous les frères, ils ont tous regardé là-dessus. Ils ne pouvaient comprendre, elle dit, eh bien, ça alors, ce n'est même pas écrit ici, mais cependant, ils lisaient ce qui était à l'extérieur. Pourquoi n'est-ce pas écrit là-dedans? Nous pouvons comprendre. Et Junior se retourna pour regarder, et il me vit partir vers l'ouest, vers le soleil couchant, passant par-dessus une montagne, puis par-dessus une autre, très vite, devenant, puis ils se retournèrent pour regarder et dire que j'étais parti. Alors un grand nombre d'entre eux s'en alla dans cette direction, et voulait aller faire ceci et cela, après que j'aurais dit de rester là, rester là, rester à cet endroit précis, c'est ici l'endroit. Puis une fois que j'ai fait cela, je suis allé exactement... Et peu de temps après, l'ange du Seigneur m'y apparut pour me dire, « Va là-bas, en Arizona. » J'entendis le bruit de cette explosion et je suis allé là-bas. Et qu'était-ce? Le songe de ce frère était tout à fait exact. Et le Seigneur a donné la juste. Souvenez-vous, j'ai dit, « Je vais là-bas pour quelque chose. » Et lorsque je suis allé là-bas, c'était le mystère des sept sceaux qui étaient scellés à l'intérieur de cette montagne du Seigneur. Je suis immédiatement revenu avec l'ouverture des sept sceaux. Voyez-vous? Non, vous ne devriez pas faire cela. Si vous voulez y aller, c'est votre affaire, bien sûr. Je ne... Oh, il m'importe peu où vous allez. Mais si vous faites simplement cela parce que vous pensez que l'épouse partira de là, vous faites une erreur. J'ai aussi entendu ceci. Laissez-moi... Il y a quelque chose ici que je n'ai pas très bien compris. Voyons. L'enlèvement. Est-ce vrai ou devrions-nous vendre nos maisons, ou avez-vous dit une fois ceci? Non, je ne l'ai jamais dit, j'ai toujours conseillé aux gens de rester où ils étaient et de continuer à avancer jusqu'à ce que Jésus vienne. Je vous ai dit de nombreuses fois que cette bande sert de mémorial, que ce jour sert de mémorial, que ma parole sert de mémorial. Je n'ai jamais, à aucune occasion, dit à quiconque, cherché à faire des prosélytes ou essayé de faire que quelqu'un vienne dans cette église. Je n'ai jamais, pour ce qui est de leur dire de quitter leur propre église et de vendre leurs biens, etc., Dieu sait que j'ai toujours conseillé aux gens de rester des chrétiens et de rester où ils étaient jusqu'à ce que Dieu les appelle. Tout le monde sait cela. Restez là. Mais maintenant, pour ce qui est de dire aux gens, si quelqu'un dit, eh bien, je veux aller là-bas, je veux vivre là-bas, alors allez où vous voulez, c'est en ordre. Peu m'importe où vous allez, ce n'est pas mon affaire. Mais maintenant, de penser que, voyez-vous ce que cela produit? Cela commence un culte, et alors cela me crée des ennuis. Ils ont actuellement un groupe là-bas qui devra bientôt vivre d'un monde. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes venus ici pour l'enlèvement des pouces. C'est exactement ce que les journaux attendent. Ils attendent le moment où ils devront faire la charité et où ils ne pourront retourner chez eux pour s'en emparer. Puis, que vont-ils faire? Eh bien, nous avons suivi Frère Branham ici. Il était censé. Et je suis en cela tout ce qu'il y a de plus innocent. Ces chers et braves gens savent que je les aime, et ceci même dans leur erreur. Et je les aime malgré tout, voyez-vous, je les aime, ce sont mes enfants, mais ils ne veulent simplement pas m'écouter, écouter ce que j'essaye de leur dire. J'essaie de mener à bien quelque chose dans le nom du Seigneur, et ne me le laissent pas faire, voyez-vous, ils sont à vrai dire plutôt contre moi que pour moi. Ils font, ne vous ai-je pas dit que si jamais un message était prêché, il le serait ici même, dans ce tabernacle, et que si je devais faire quoi que ce soit, je viendrais ici. Et vous le direz premièrement, directement du tabernacle ici, c'est ma promesse. J'ai également entendu dire qu'il y a un enseignement qui est répandu à propos d'un livre que vous avez écrit il y a plusieurs années, traitant du pain de vie. L'interprétation de celui-ci est que nous devons tous être avec vous, sans quoi nous manquerons l'enlèvement. Eh bien, le livre est faux. Le livre, le pain de vie, je me souviens de cela maintenant, c'était nourrir l'Église universellement, partout. Voyez-vous, ce qui ne va pas, c'est, or vous-même, vous êtes solide. Mais vous devez avoir cela. Cela suit chaque réunion. Je lisais à propos de Martin Luther il n'y a pas longtemps, sans pour autant nous comparer avec cela, mais c'est ici une réforme pareille à celle-là. Et la question est-il, les historiens disent, c'est merveilleux de penser que Martin Luther pût s'élever contre l'Église catholique et s'en tirer. C'était merveilleux. Mais la chose la plus merveilleuse à propos de Martin Luther n'était pas celle-là. C'était qu'il ait pu garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui suivit ses réunions et rester néanmoins fidèle à la parole et à son appel. Voyez-vous? Non, monsieur, ne mettez pas votre propre, tout homme ou toute femme qui ajoute quoi que ce soit à ce que j'ai dit, ne croit pas à ce que je dis. Ils disent, aussi au sujet de ces familles qui ont tout vendu et sont allées habiter à Sierra Vista en Arizona, ayant interprété de l'une de vos bandes, intitulée Une minute. Petite Bethléem, que l'enlèvement se produirait en Arizona. Leur avez-vous conseillé d'aller là? Je ne l'ai certainement pas fait. Lorsqu'ils écrivirent une lettre à ce sujet, quelqu'un ici, dans le Connecticut ou ailleurs, j'ai répondu à cette lettre en disant, vous êtes en train de faire le pire déplacement que vous ayez jamais fait dans votre vie. Ne faites pas une telle chose. Voyez-vous, vous ne pouvez pas. Eh bien, vous vous souvenez simplement, vous qui êtes là, or vous savez tous que je ne dis pas à ces gens de faire cela. Je leur dis de ne pas le faire. Mais vous voyez, cela doit suivre les réunions. Pourquoi les gens m'appellent-ils le Messie? Pourquoi les gens? Ils portent. Un homme là-bas m'a montré l'autre jour une petite chose qu'il portait sur lui. Et il voulait que tous les gens soient baptisés en mon nom. Cela ferait de moi un antichrist. Mais je ne suis pas pour ces choses. Et vous le savez tous. Mais voyez-vous, cela identifie seulement que le message est vrai. Ne sont-ils pas venus essayer de dire à Jean qui a préparé la première venue de Christ, n'es-tu pas le Messie? Il répondit, je ne le suis pas, je ne suis même pas digne de détacher ses souliers, je ne suis même pas digne de le regarder, voyez-vous. Mais il dit, celui qui vient après moi. Maintenant, frère Branham, y a-t-il quelque chose qui nous échappe? Ces gens prétendent croire chaque mot que vous prononcez. Mais non, ils ne le croient pas. Leurs actions prouvent qu'ils ne le croient pas. Répondez-moi franchement, s'il vous plaît. Oui ou non? Vous l'avez, très bien. À propos de ces choses, et si c'est vrai, nous voulons nous préparer pour aller nous joindre aux autres qui sont là-bas. Aux autres. Je vous remercie beaucoup des réponses que vous donnerez à ces questions, comme je m'attendrai à les entendre ce dimanche, si le Seigneur tarde. Oh là là. Eh bien, frère ou sœur, j'espère que c'est compris, voyez-vous, que je n'ai pas. Maintenant, si les gens... Oh, bien sûr, si vous voulez venir en Arizona pour y vivre, je serai peut-être en Arizona ce premier semestre. Je devrais revenir ici. Je veux rester là-bas. Les enfants sont en meilleure santé et tout le reste. Je veux rester là-bas quelque temps et j'ai un but dans cela. Maintenant, souvenez-vous sur la bande. Ainsi dit le Seigneur. J'ai un but en faisant ce que je fais. Vous savez que j'en ai un. Mais je ne peux pas vous le dire. La raison pour laquelle je vous dis de ne pas vendre vos maisons, c'est que vous allez vous trouver dans le besoin et allez être pris. Ne faites pas cela. Je ne vais rester en Arizona que peu de temps. Pourquoi? Je ne peux pas le faire maintenant. Si je laisse ces gens rester là-bas et commencer à vivre d'aumône, que va-t-il arriver? Alors c'est exactement ce que les dénominations et tous les autres attendent. Ah! Je vous ai dit ce qu'il y avait derrière lui, une autre école de prophètes ou quelque chose ainsi. Voyez-vous, vous y êtes, c'est exactement ce qu'ils attendent. Après tous ces gens, j'en suis responsable. Bien qu'ils n'aient pas fait ce que j'aurais dit de faire, et qu'ils ont fait exactement, vous dites, laissez-les aller. Ils ont fait ce que vous leur avez dit de ne pas faire. Ce n'est pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux néanmoins aller les chercher. Ce sont mes enfants. Je leur donnerai peut-être une petite fessée lorsque je les ramènerai. Mais je vais certainement aller à leur poursuite. Et comment vais-je m'y prendre là-bas? Ils ont dit, nous venons poursuivre la parole. Je n'ai même pas là-bas une église à laquelle les envoyer. Le genre d'église où ils iront là-bas est le même que celui des autres endroits que vous avez quittés. Ou peut-être pire. Voyez-vous, et de toute façon, ils n'iront pas à l'église. Et je n'ai aucune église dans laquelle leur prêcher. Alors je suis moralement obligé de faire sortir mes enfants d'Arizona. Ou... Laissez-moi vous poser une question. J'ai prêché plus de 30 messages dans cette église l'année dernière. Et durant 5 ans, à l'extérieur, depuis que je suis en Arizona, j'ai prêché plus dans cette église en une année que je l'ai fait en 5 ans dans n'importe quel autre endroit. Certainement, ici dans l'église. Ceci est ma base. Ceci est mon quartier général. C'est ici que nous sommes installés. Maintenant, gardez ceci à l'esprit, peu importe ce qui arrive. Or, si vous êtes sage, vous saisirez quelque chose. Peu importe ce qui arrive, voici notre quartier général, ici même. Gardez ceci à l'esprit et référez-vous un jour à cette bande sur laquelle vous m'avez entendu prophétiser. Très bien, souvenez-vous-en. Si vous voulez, si vous devez quitter et venir à l'église, n'allez pas là-bas pour le trouver. Parce que je n'y suis même pas, je n'ai aucun endroit à aller. Je n'ai aucun endroit où prêcher. Ils ne veulent pas me laisser prêcher dans leurs églises. Je n'ai même pas d'endroit et j'ai promis aux frères que je suis arrivé là-bas. Ils ont tous eu peur que je vienne là-bas pour construire un grand bâtiment et vider les églises. Mais ce n'est pas mon but dans la vie, voyez-vous. Je fais que les gens soient sauvés. C'est leur affaire. Comme le Samaritain qui passait, il a emmené l'homme à l'auberge. Puis dès ce moment, c'était à eux de s'en occuper. Je ne suis pas ici pour briser des églises. Je suis ici pour amener des convertis à Christ. Voyez-vous. Et cela me rend mécompris parmi les gens, lorsqu'ils interprètent de leur propre façon et ne disent pas ce que je dis. Voyez-vous? Ne vous souvenez-vous pas de la vision? Combien se souviennent du songe de Junior Jackson? Et tous les autres suivent exactement. Qu'était-ce? Restez ici, jusqu'à ce que j'aille là-bas. Voyez-vous? Que je reçoive l'interprétation et que je revienne. Maintenant, j'ai quelque chose d'autre dans mon cœur, que le Seigneur m'a dit de faire. Une manœuvre qu'il faut faire en rapport avec ce tabernacle et cette église. Qui fait que je dois aller là-bas, ou quelque part pendant une courte période. C'est pour un but, un grand but, un but à propos duquel vous ne savez rien. Mais souvenez-vous que je ne fais pas que courir d'un coin à un autre comme ça en a l'air. Je suis en train de travailler dans la volonté du Seigneur, autant que je sache. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle, si vous croyez ce que je dis, alors faites ce que je dis, voyez-vous, puis écoutez-moi et croyez-moi en tant que votre frère. Si vous croyez que je suis un prophète, n'interprétez pas mal mes paroles. S'il y a quoi que ce soit, que Dieu me juge si je ne dis pas la vérité. S'il y a quoi que ce soit que Dieu me dit et que vous devriez savoir, Dieu sait que je vous le dirai exactement. Et n'ajoutez pas cela ou n'y retranchez pas. Faites-le simplement tel que je vous le dis. Voyez-vous, pensez du cœur que je vous le dis et au mieux de ma connaissance. Voyez-vous, croyez simplement cela. Prenez simplement ce que je dis à ce sujet et laissez-le tel quel. Très bien. Ainsi maintenant, je dois ramener ces enfants ici, afin qu'ils aient quelque chose à manger. Ils sont là-bas, dans le désert, en train de mourir de faim. Un prédicateur est venu vers moi l'autre jour et m'a dit, « Frère Branham, ils commencent à pratiquer là-bas le culte le plus terrible que vous ayez jamais vu. Chacun d'entre eux sort chaque matin et ils disent qu'ils ne vont pas travailler, que c'est trop proche de l'enlèvement. Ils ne vont pas travailler. » Eh bien, cela montre simplement que vous ne comprenez même pas. Voyez-vous, c'est vrai. Cette bande va aller là-bas. Ainsi, oui, monsieur, vous devriez recevoir une leçon de la fourmi, dit la Bible. Vous savez, si elle ne travaille pas, elle ne mange pas. Ainsi, c'est exactement cela. Voici, je viens d'en prendre une autre de semblable. Là, je ne sais pas, voyez-vous, c'est simplement, c'est différent. C'est une écriture différente de celle-ci. Simplement vous montrer, car je pense qu'il y en a environ 8 ou 10 de semblables là-dedans, voyez-vous. La plus parfaite église sera-t-elle à Tucson, en Arizona? Je veux être de la volonté parfaite de Dieu. Devrions-nous déménager à Tucson? Ce n'est pas du tout la même écriture. C'est, regardez simplement par ici. Je vais juste vous montrer combien il y en a sur cette question. Je n'ai pas pu les trouver. Voici, je marque ici sur certaines, je vous ferai savoir. Frère Branham, veuillez, voyons, sachant que vous êtes le prophète, et voyant l'heure dans laquelle nous vivons, y aura-t-il, sachant que vous êtes prophète pour l'heure dans laquelle nous vivons, voilà, c'est ça, y aura-t-il un temps où le peuple de Dieu devra s'enfuir en Arizona avec vous? Si c'est le cas, nous ferez-vous savoir quand ce sera le moment? Bien sûr. Je vous le dirai. Maintenant, voyez-vous, il y a 2 écritures différentes, 2 personnes différentes. Voici une écriture et en voilà une autre. Voyez-vous? C'est ce qui doit occuper la pensée de l'Église. Eh bien, réglons simplement ceci. Voyons si je peux trouver... Voyons. Frère Branham, en voilà une autre qui est tout à fait différente. Frère Branham, certains ont compris dans votre message sur la demeure future de l'épouse et de l'époux que celle-ci devait former... Non, c'est différent. Former un carré de 2200 km autour du tabernacle, soit 1100 km dans chaque direction. En d'autres termes, le tabernacle se trouvant juste au milieu, cela fera 1100 km dans chaque direction, soit un carré de 2200 km. Oh, dans chaque direction. Est-ce vrai? J'habite en dehors de cette région. Devrais-je déménager pour venir à l'intérieur de celle-ci? Non, mes bien-aimés, ne faites pas cela. Regardez, maintenant, voyez-vous comme c'est facile pour les gens. Combien c'est ici que j'ai prêché ce message? J'ai dit que lorsque j'ai mesuré la Nouvelle Jérusalem, celle-ci formera un carré de 2200 km. J'ai dit que cela irait approximativement du Maine à la Floride et 950 km à l'ouest du Mississippi, et que cela formerait un carré de 2200 km. J'ai dit qu'à mon avis, la cité se trouverait exactement à l'endroit où le prophète Abraham l'a cherché. Quand il n'y aura plus de mer, la Bible dit qu'il n'y aurait plus de mer. Or, environ les 3/4 de la terre sont recouverts par de l'eau. Il n'y aura plus de mer. C'est pourquoi ce ne sera pas une cité trop grande pour se trouver à un tel endroit. Je crois qu'elle se trouvera dans ce petit endroit à propos duquel ils se disputent tellement, et où Dieu fut né, là, à Bethléem. Je crois que ce sera là, quelque part en Palestine, que cela sortira de la terre pour former cette montagne. Mes chers amis, cela n'a rien à voir avec ce tabernacle. Voyez-vous, Abraham, Isaac, Jacob, Paul et tous les saints moururent partout dans le monde. Ils furent brûlés, noyés, dévorés par les lions et tout le reste. Ils sortiront de toutes les fentes, crevasses et coins du monde. J'espère y être. Je ne sais pas où je serai, mais quel que soit l'endroit, si je suis dans ce groupe, rien ne peut m'empêcher d'y être. Voyez-vous, et je n'ai pas besoin d'être à un certain endroit. Le seul endroit où je dois être, c'est en Christ. Car ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui. Peu m'importe où c'est, il amènera « Enterrez-moi en Jésus ». Regardez ces prophètes dans le passé. Ils savaient dans le sens littéral que la première résurrection, les prémices, auraient lieu en Palestine. Abraham acheta un terrain et il enterra Sarah. Et il engendra Isaac. Isaac fut enterré à côté de son père et de sa mère. Isaac engendra Jacob. Jacob mourut en Égypte, et il fut ramené en Palestine. Puis Joseph mourut aussi là-bas, et ils ramenèrent les os de Joseph, parce qu'il dit, faites, Jacob fit jurer à Joseph qu'il ne l'enterrerait pas là-bas, mais qu'il le ramènerait dans la terre promise. Joseph dit, un jour le Seigneur votre Dieu vous visitera, qu'on prenne mes os et les enterre avec mon père. Et ils le firent, parce qu'étant des prophètes, ils comprirent que les prémices de la résurrection se trouveraient en Palestine. Maintenant, la Bible dit, et si vous m'appelez un prophète, je ne dis pas que j'en suis un, mais si vous m'appelez ainsi, Souvenez-vous, je vous dis au nom d'un prophète, voyez-vous, au nom d'un prophète, que la résurrection et l'enlèvement seront généraux sur toute la surface du monde, peu importe où vous êtes. Lorsque cette heure arrivera, vous serez enlevés pour aller à sa rencontre. C'est tout. Rien ne va vous arrêter, peu importe où vous êtes. Et j'espère seulement que j'y serai, que je serai l'un d'entre eux. J'espère et j'ai simplement confiance en Dieu que je serai l'un d'entre eux et que chacun de vous le sera aussi. Maintenant, avons-nous le temps pour notre question? Alors il sera presque 13 heures. Cher frère Branham, ma femme et moi étions séparés. Elle me poursuit maintenant en divorce. Elle n'est pas chrétienne. Et je crois le message et je veux qu'elle soit sauvée. N'est-ce pas beau? C'est un véritable esprit chrétien, voyez-vous? Et je crois, que dois-je faire? Nous avons aussi 2 garçons. Il a signé. Frère, regardez, laissez-moi vous dire que si elle vous poursuit en divorce, c'est Satan. Voyez-vous, elle ne devrait pas faire cela. Mais si vous êtes un chrétien et que vous n'avez rien fait au monde pour nuire à cette femme, alors c'est Satan qui fait cela. Il essaie seulement de vous déchirer. Maintenant, si elle est une des élues de Dieu, elle viendra à lui. Si elle ne l'est pas, il ne vaut pas la peine de se faire du souci à son sujet. Alors, si vous vous faites du souci, cela mettra en bas votre santé, et c'est ce que Satan veut. Il est en train d'agir contre vous, je sais. Ainsi, remettez simplement le tout à Dieu et continuez à servir Dieu en étant aussi heureux que possible. Dieu s'occupera du reste. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Mettez-vous à genoux, je prierai avec vous, je prierai à ce sujet. Dites simplement, Seigneur Dieu, je l'aime. C'est la mère de mes enfants, si c'est le cas. Je te remets simplement le tout, Seigneur. Je veux qu'il soit sauvé. Tu sais que je le veux. Mais je ne veux pas aller plus loin. Elle va de toute manière divorcer avec moi. Je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, révèle-le-moi. J'irai le mettre en ordre. Je ferai n'importe quoi. Alors remettez-le au Seigneur et laissez simplement ça tranquille. Laissez-le tranquille. Allez, continuez à vivre comme si rien ne s'était passé. Et Dieu s'occupera du reste. Amen. Maintenant, frère Branham, qu'est-ce que tout ceci à propos des gens, de nouveau, qui déménagent en Arizona? Expliquez-le. Voilà un autre genre d'écriture, voyez-vous? Eh bien, nous l'avons déjà expliqué cela. Voyez-vous ce que c'est? Frère Branham, l'épouse passera-t-elle par la persécution comme l'Église apostolique primitive? Non, je viens d'expliquer cela il y a quelques minutes. Non, maintenant, la chose suivante, c'est l'enlèvement. Souvenez-vous, nous sommes à la frontière du pays promis. Vous comprenez la marche d'Israël? Est-il permis d'utiliser un moyen quelconque pour contrôler les naissances? Je ferais mieux de laisser cela jusqu'à cet après-midi, voyez-vous, parce que je veux dire quelque chose à ce sujet. Frère Branham, j'attends encore 3 minutes si je peux. Laissez-moi peut-être prendre quelque chose de court ici. Je ne peux pas m'abandonner complètement à Jésus. Ai-je un mauvais esprit? Laissez-moi terminer le temps qui reste avec ceci. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Voyez-vous, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne pourrais pas dire lequel c'est. Dieu sait cela. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Que se passe-t-il? Si vous êtes une femme, ne devez-vous pas vous abandonner à votre mari pour être une épouse? Abandonner tout ce que vous êtes? Lorsque vous êtes marié, vous étiez une petite dame, vertueuse, qui avait combattu toute sa vie pour rester vertueuse. Mais un jour, vous avez trouvé l'homme que vous aimiez. Vous étiez à lui complètement. Les choses contre lesquelles vous auriez combattu toute votre vie pour essayer de vivre d'une façon propre, nette et vertueuse, maintenant vous cédez tout cela à un homme. Est-ce juste? Vous abandonnez complètement entre ses mains. Vous êtes à lui. Tout ce que vous avez défendu, comme la décence, la moralité, tout cela, maintenant, vous le remettez à un homme, parce que vous êtes livré à lui. Ne pouvez-vous pas faire la même chose avec Jésus-Christ? Abandonnez-vous simplement ainsi tout ce que je suis, tout mon esprit, toutes mes pensées. Certainement, je ne pense pas que vous soyez possédé d'un mauvais esprit. Je pense qu'un mauvais esprit vous oint avec ces sortes de pensées pour essayer de vous faire croire que vous ne pouvez pas vous abandonner à Dieu. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Pourquoi voudriez-vous vous abandonner à lui? Parce qu'il y a quelque chose là qui vous appelle à vous abandonner. C'est un très bon signe que vous devriez vous abandonner. Maintenant, Tout ce que vous faites, frère ou sœur, c'est peut-être une personne jeune ou âgée, peu importe, vous avez dit, il ne peut pas arriver à s'abandonner complètement. Livrez-vous simplement. Seigneur, ma pensée, tout ce que je suis, je veux te le donner. Ma vie, je la donne pour te servir. Prends-moi, Seigneur, et utilise-moi comme je suis. C'est une chose tellement simple. Je souhaiterais que l'Église puisse vraiment... Je crois que si le tabernacle, maintenant, alors qu'il bénéficie de ces questions, les aimez-vous? Très bien, cela aidera un peu. Maintenant, regardez à propos de ceci. Si l'Église demandait simplement ces choses, vous voyez, si elle demandait ces choses, comme s'il devrait faire ceci ou faire cela, etc., j'essaierais de faire le mieux possible. Si je vous ai mal conseillé, ce n'était pas le désir de mon cœur de le faire. Si je dis quelque chose de faux, simplement pour soutenir quelques-unes de mes pensées personnelles, en sachant que c'est faux de faire cela ou de vous dire cela, je serai un sale hypocrite. C'est vrai. Si j'ai tort, Dieu sait que j'ai répondu à vos questions avec tout ce qui est en moi et ceci du fond du cœur. Et vous, prédicateurs, dans le pays où cette bande ira, sachez que je n'ai pas dit ces choses pour vous blesser. Je les ai dites parce que je vous aime, voyez-vous, et vraiment de tout mon cœur, je n'essaye pas de montrer que je sais quelque chose que vous ne savez pas. Ce n'est pas cela, mon frère. Je fais seulement ceci parce que je vous aime. Et je crois que vous m'aimez. Qu'arriverait-il si vous me voyez descendre la rivière dans un vieux bateau, près de l'endroit où nous sommes maintenant ici, au tabernacle, la rivière de l'Oyo, et que le niveau de la rivière soit haut, qu'elle soit en crue, et que les chutes se trouvent juste devant moi, et vous savez que ce bateau ne passera pas par-dessus ces chutes, il n'y arrivera simplement pas, et me voilà assis, la tête en arrière, en train de chanter et me reposer, descendant tranquillement cette rivière, et vous savez que là en bas, je vais faire naufrage. Si vous m'aimiez, vous crieriez, ou vous sauteriez dans un bateau, iriez rapidement à ma poursuite, et vous me frapperiez sur la tête avec quelque chose pour me faire revenir à moi-même. Frère Branham, vous avez perdu l'esprit, vous avez perdu l'esprit, les chutes sont juste là. Et si je disais, oh, taisez-vous, laissez-moi tranquille, et que malgré cela vous m'aimiez, vous feriez tout au monde pour me saisir. Même si vous deviez briser le bateau, vous me feriez sortir de là parce que vous m'aimez. Vous savez ce qui va arriver. Et frère, je sais que c'est ce qui va arriver à cette dénomination. Elle ne va pas résister à la marée. Voyez-vous, vous allez directement vers le Conseil mondial des Églises. Et maintenant, vous devez soit faire partie, soit devenir comme nous en ce moment. C'est exact. Vous allez faire votre choix. Je n'ai pas l'intention d'être, j'aimerais bien briser le bateau. J'aimerais bien faire tout ce que je peux, non pas pour vous faire du mal, frère, mais pour vous réveiller, afin que vous voyez que vous êtes dans l'erreur. Ne faites pas cela, et ce baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul homme sur la face de la terre qui pourrait condamner cela par l'Écriture. Il n'y a pas un seul homme qui puisse condamner cela. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture. Vous qui êtes là, vos frères, souvenez-vous simplement, sondez la Bible, trouvez un endroit dans le Nouveau Testament où quelqu'un a été une fois baptisé. Ils ne furent pas baptisés dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, où quelqu'un fut une fois baptisé autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors venez me le montrer. Ou allez trouver le livre d'histoire où il est dit que pendant des centaines d'années, après la mort des derniers apôtres, ils étaient une fois baptisés. L'Église catholique a commencé le baptême. Leur catéchisme dit la même chose, en utilisant le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Dans une entrevue avec un prêtre ici, à l'église du Sacré-Cœur, celui-ci me dit la même chose. Il m'a dit que l'église catholique avait coutume de baptiser ainsi, lorsque je lui ai dit que j'allais baptiser cette fille, Frasier. C'est ce que l'évêque voulait savoir. Il me dit, allez-vous jurer l'exactitude de cette déclaration? J'ai répondu, je ne jure pas du tout. Il me dit, l'évêque veut que vous le fassiez. J'ai dit, l'évêque devra prendre ma parole, ou alors ne pas le croire, comme il veut. Voyez-vous, j'ai dit, la Bible dit de ne pas du tout jurer. Elle dit, eh bien, j'ai dit, je l'ai baptisé du baptême chrétien dans l'eau. Je l'ai immergé au bas de la rue Spring, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le prêtre inscrivait ceci, il dit, c'est ainsi que l'Église catholique avait coutume de baptiser. Je dis, quand? Il répondit, du temps des apôtres. Je dis, vous les appelez des catholiques? Il répondit, bien sûr. Je dis, alors, je suis un meilleur catholique que vous. Je suis leur enseignement. C'est vrai, voyez-vous, ils prétendent cela. Mais il n'en est pas ainsi. L'Église catholique fut fondée à Nicée, Rome, sous Constantin, lorsque l'Église et l'État s'unirent ensemble, et que l'État donna une propriété à l'Église, et des choses comme cela. À vrai dire, ils pensèrent qu'ils étaient dans le millénium. Ils ont pensé qu'ils avaient atteint le millénium. C'était le millénium de Satan, exactement. Ne croyez surtout pas ces choses. Oui, monsieur. Mais, puis lorsqu'ils firent, ou, au lieu d'avoir une idole, ils enlevèrent Vénus et mirent Marie. Ils enlevèrent Jupiter et mirent Paul ou Pierre. Là, au Vatican, à Rome, en ce moment, dans la cité du Vatican, il y a une statue de pierre de 6 mètres de haut. Elle prétend que 3 orteils ou pieds de cette statue ont disparu à force de les avoir baisés. Voyez-vous, tout est un... à travers tous. Un matin, alors que nous étions là-bas, Billy et moi, nous sommes allés dans une église. Nous sommes descendus dans le sous-sol où ils enterrent tous leurs moines, etc. et laissent leurs os se décomposer dans cette poussière. Un os se sépare d'un autre en pourrissant. Puis ils prennent ces os et font des supports de lampes avec des mains qui pendent comme ceci et des crânes. Et les gens qui entrent là-dedans ont rendu ces crânes blancs à force de les frotter pour essayer de retirer des bénédictions de ces crânes d'hommes morts. C'est une forme de spiritisme, voyez-vous. Et c'est à cet endroit précis que cela a commencé à Rome. Et c'est là qu'est le siège de la bête. Et c'est de là que vient la vieille mère prostituée. Et ses filles sont des prostituées exactement comme elle, parce qu'elle a donné au monde entier une coupe de son indignation, une coupe de son témoignage, qui était mélangée là-dedans avec le fiel de la terre. Elle avait son témoignage. Elle disait, je suis assise comme une vierge. Je veux dire, je suis assise comme une veuve. Et je n'ai besoin de rien. Elle ne sait pas qu'elle est misérable, malheureuse, aveugle, pauvre. Elle ne le sait pas. C'est cela. Et cela s'applique à l'Église catholique, de même qu'à chaque dénomination protestante. Mais dans tout ce gâchis là-bas, il y a de précieuses personnes qui aiment le Seigneur Dieu de tout leur cœur, âme et pensée. Elles pensent qu'ils ont raison. Ils pensent qu'ils agissent bien. Dieu sera le juge suprême. À mon opinion, si Dieu va juger l'Église par le monde, c'est ce que dit l'Église catholique. Alors j'ai demandé à cet homme qui me questionnait, il me dit, Dieu jugera le monde par l'Église. J'ai dit, laquelle? Il répondit, l'Église catholique. Je dis, quelle Église catholique? Elles diffèrent l'une de l'autre. Quelle Église? L'Église grecque, orthodoxe ou l'Église romaine? Par laquelle va-t-il juger? S'il va juger le monde par l'Église protestante, laquelle? L'Église méthodiste, baptiste, luthérienne, pentecôtiste, par laquelle va-t-il juger? La Bible dit qu'il jugera le monde par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Ainsi, à mon avis, c'est par la parole de Dieu qu'il jugera le monde. C'est vrai. Et je crois que ces jugements sont maintenant sur la terre. Je crois, cherchons de tout notre cœur à échapper à la condamnation et à la colère de Dieu qui va être déversée sur ce monde incroyant. Et il n'a aucun moyen d'y échapper. Il n'y aura plus jamais, jamais, jamais de salut pour le monde. Ils ont franchi leur ligne entre la grâce et le jugement. Il y a, vous pourriez mettre un Abraham Lincoln dans chaque arrondissement des États-Unis, et cela ne ramènerait jamais ce tas de Ricky et d'Elvis à Dieu. Quand vous voyez dans le journal, je l'ai jamais cet après-midi si vous voulez le voir ce soir, qu'une église presbytérienne, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être vu, qu'une église presbytérienne célèbre la messe ou le sacrement avec du rock'n'roll, le pasteur se tenant là en train de taper des mains comme cela. Alors qu'il représentait la marche de la crucifixion, il chahutait sur un air de rock'n'roll dans une église presbytérienne. Et quand ce groupe ignoble et corrompu des Beatles, comme on les appelle, qui crient et sont arrivés plus bas que l'homme, voulant devenir des Beatles, c'est-à-dire des scarabées, ils refusaient un contrat de 100 000 $ à Saint-Louis il y a quelques semaines. Ils ne voulaient pas s'arrêter pour ça. Ils sont venus ici, cette bande de petits renégats anglais, avec leurs cheveux qui leur tombent sur les yeux. Et maintenant, ils sont en train de commencer leur propre religion. Vous avez vu cela dans la revue Look, voyez-vous, oh, comme ce monde est contaminé. Il n'y a absolument aucun espoir pour lui. Ils ont franchi la ligne de séparation entre la raison et le bon sens, sans parler de salut. L'homme ne peut même pas juger. Nous n'avons plus les hommes que nous avions. Où est Patrick Henry? Où est Abraham Lincoln? Des hommes qui peuvent prendre position sur de solides convictions. Où est cet homme qui peut se lever et faire en sorte que ces femmes folles, par ici, qui se déshabillent devant ces hommes? Il les laisse promener comme une bande de stripteaseuses et ils mettent au pénitencier le garçon qui oserait insulter l'une d'entre elles. Où est votre raison? Qu'est-ce que le bon sens? Si elle-même se met là, laissez-la aller comme un chien. Oui, monsieur, ça ne va pas faire davantage que, ça n'a pas plus de décence que cela. Où sont les lois qui pourraient arrêter cela? Ici à Louisville, au Kentucky, il y a 2 semaines, lorsque cette femme, pour essayer de faire paraître son nom dans le journal, a mis un bikini en plastique, et qu'elle est partie à pied de l'hôtel Brown, en se moquant du policier qui essaya de l'arrêter. Alors il braqua une arme contre elle pour l'arrêter, la poussa dans la voiture, et la fait comparaître au poste de police pour habillement immoral, etc. Elle alla donc et comparut. Vous savez ce qu'ils n'ont pas sujet? Ils ont congédié le policier. Que Dieu aide une nation pareillement pourrie. Vous ne pouvez pas vous en tirer à moins de mal agir. Nous ne pouvons peut-être pas nous en tirer, mais nous pouvons monter. Et c'est de cela, et c'est ce que nous attendons. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, que le grand berger vienne et nous retire de ceci. Seigneur, nous l'attendons. Nous attendons cette heure. Quand nous voyons le monde si corrompu, nous savons que tu as dit qu'il serait ainsi. Tes grands prophètes ont prophétisé que ce temps arriverait. Nous croyons les prophètes, Seigneur. Nous croyons cela. Et maintenant, nous te prions, Dieu, de nous donner des prophètes pour nous interpréter cette parole, afin que nous puissions savoir si nous avons raison ou tort. Nous voyons apparaître de faux prophètes. Ils sont dans les déserts, à Salt Lake City, dans toutes les parties du pays, dans toutes sortes de déserts et dans toutes sortes de chambres secrètes. Partout, il y a toutes sortes de pères divins, etc. En voyant ces pauvres frères et sœurs de couleur là-bas, qui veulent maintenant l'intégration. Et aussitôt qu'ils l'ont, c'est juste, ils devraient l'avoir. Ce sont des frères et des sœurs. Or, quand ils l'ont, ils sont pires que jamais. Cela montre que c'est inspiré par les communistes. Oh Dieu, ces pauvres hommes, peuvent-ils voir cela? Que c'est seulement fait? Eh bien, cela doit arriver, Seigneur. Viens, c'est ce que nous voulons. Viens simplement, Père. Nous attendons. Viens, Seigneur, prends-nous dans tes bras. Pardonne-nous nos péchés. Il n'y a plus aucune justice dans ce monde. Une chose s'élève contre une autre, et c'est si rongé par les vers qu'il n'y a rien de sale là-dedans. Tu as dit que tout le corps était devenu comme des plaies putréfiées. En vérité, chaque table est pleine de vomissements. Tu as dit, à qui puis-je enseigner la doctrine? À qui pourrais-je faire comprendre en ce jour-là? Toute la table du Seigneur est pleine de vomissements. Nous le voyons, Seigneur. Nous voyons que cette heure est arrivée. Aide-nous, s'il te plaît. Ô Dieu bien-aimé, tellement de ces questions sont à propos des gens qui viennent en Arizona. Ô Dieu bien-aimé, fais que ces chères et précieuses personnes, ils écouteront cette bande là-bas. Fais-leur savoir que je ne suis pas un dictateur pour leur dire où ils doivent vivre et ce qu'ils doivent faire. Puissent-ils bien comprendre ceci? S'ils aiment cette région comme je l'aime, laisse-les être là-bas, Père. Mais lorsqu'ils enseignent que l'enlèvement doit se produire là et là seul, ou qu'ils doivent être avec moi, un pauvre pécheur indigné et corrompu, sauvé par la grâce de Dieu, qu'ils doivent être autour de moi, Seigneur, je veux être autour. Je veux être autour de Paul. Je sais qu'il va en être. Et Pierre, Jacques et Jean, ils sont en Palestine, ensevelis quelque part là-bas. Je sais que j'irai avec eux. Si tu avais mon nom dans ce livre, de la fondation du monde, j'y serais. Et je prie au Dieu que chacun d'entre eux y soit. Aide-moi, Seigneur, à les réunir tous de nouveau ici, quelque part, où ils peuvent. Ils veulent entendre le message auprès de ces grands enseignants, comme frère Neville, frère Caps et tous les autres frères ici. Juni, frère Riddle, Eo, GT, et tous les autres, frère Collins, frère Biller, frère Palmer. Oh Dieu, je te prie d'accorder ceci à ces... Fais-les venir ici, où ils peuvent vraiment l'entendre, s'ils veulent l'entendre, sans avoir à courir là-bas dans ce désert. Ils essaient de faire exactement ce que l'Écriture leur dit de ne pas faire. Voici, il est dans le désert, ne le croyez pas. Voici, il est dans la chambre secrète, ne le croyez pas. Seigneur, j'essaie de mon mieux de les avertir. Mais tout indique que l'heure est proche maintenant. Les ombres du soir tombent. Je demande la miséricorde, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi. Aide-moi. Cela me rend nerveux, Père. Je te prie de m'aider. Je ne veux pas sceller ma vie ou que tout mon travail ici soit réduit en celui d'un fanatique qui conduira un groupe ou les membres d'un culte dans un désert quelque part. Ne laisse pas mon nom finir comme cela, Seigneur. J'ai combattu durement pour ceci. Je suis aussi sincère que possible avec cela. Oh Dieu, ne laisse pas arriver. Aide-moi d'une façon ou d'une autre. Je ne sais que faire. Je compte sur toi, mais toi aide-moi. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je suis ton serviteur. Ce sont tes enfants. Seigneur, c'est la plupart de ces enfants, le 99% d'entre eux, Seigneur, est vraiment solide. Ils croient, ils savent, ils comprennent. Ils savent que ce n'est pas moi, mais je sais que ces choses doivent suivre chaque réveil, et celui-ci n'en est pas immunisé. Ainsi, je te prie de nous aider maintenant. Aide-nous aujourd'hui, alors que nous allons manger un petit quelque chose, Seigneur, bénis notre communion fraternelle. Réunis-nous tous de nouveau ici cet après-midi. Maintenant, beaucoup d'entre eux devront rentrer chez eux, Seigneur. Ils devront retourner chez eux, et je te prie de les aider. Puissent-ils d'une façon ou d'une autre, Seigneur, entrer en possession de la bande pour entendre le reste de leurs questions. Peut-être qu'il ne fut pas répondu aux leurs. Je te prie de les aider, Seigneur. Aide-moi à être très rapide ce soir pour répondre à ces questions et prendre toutes celles que je peux. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau ici, cet après-midi, puisses-tu nous bénir. Je te prie au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je l'aime.
Amen.
Je l'aime.
Amen.
C'est écrit là, en travers. Je l'écris afin que cela soit toujours devant moi. Christ devant moi, pendant que je réponds à ces questions. Croyez-vous que je l'ai dit du cœur? Tout vient de mon cœur pour vous aider. Certains d'entre eux viendront peut-être ici chercher leur paquet. Dieu bien-aimé, voici des mouchoirs et des paquets. Ils vont aux malades et aux affligés. Puisse le grand interprète de la parole, le Saint-Esprit qui l'a écrite, s'approcher maintenant pour cette partie du service et bénir ces tissus. Seigneur, si je pense à moi-même, qui suis-je pour poser mon corps impur et corrompu sur ces mouchoirs qui se tiennent entre la mort et la vie pour beaucoup? Ô Dieu, je tremble, mais quand je pense que tu ne me vois pas, tu ne fais qu'entendre ma voix, elle passe à travers le sang du Seigneur Jésus. Maintenant, je crois que tu me répondras comme tu l'as fait pour lui, parce qu'il m'a précédé et est allé s'asseoir à la droite de la majesté dans les lieux élevés. Et son sang se trouve là comme expiation, et je suis couvert par ce sang. Je crois, Seigneur, que tu les guériras, car ils sont dans le besoin. Sinon, ils ne les auraient pas posés là. Je te prie de les guérir tous, alors que je m'étends sur eux comme... Il est dit qu'ils retirèrent du corps de Paul. Il était aussi un pécheur, Seigneur, sauvé par ta grâce. Les gens l'ont cru, bien qu'il les ait réprimandés et tout le reste, mais ils savaient qu'il était un berger. Ils savaient qu'il était envoyé par toi, parce que tu l'as prouvé en te manifestant par son ministère. Ô Dieu, ces gens croient la même chose aujourd'hui. Je te prie de les aider maintenant et de les guérir tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous faim? Très bien. J'ai faim pour davantage de questions. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, je suis peut-être... Certaines de ces questions, je n'y ai peut-être pas bien répondu. J'ai simplement fait tout mon possible. Ce soir, j'essaierai de commencer à 7h juste. L'église sera ouverte à 6h30. Et vous qui vous pouvez rester... Vous qui ne pouvez pas, nous comprenons, c'est en ordre, mais j'essaierai de traiter toutes celles que je peux ce soir. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que nous rencontrions de nouveau. Levons-nous maintenant et chantons ce bon vieux cantique, notre cantique d'adieu, prends le nom de Jésus avec toi. Prends le nom de Jésus avec toi. Il te donnera la joie et le réconfort. Alors prends-le partout où tu vas. Précieux nom, oh combien il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, oh combien il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Je désire faire cette annonce. Billy vient de dire qu'ils ont prélevé une offrande d'amour ce matin, voyez-vous, et qu'ils avaient une belle offrande d'amour. Je les fais aller se tenir là, à l'arrière du bâtiment. Vous qui ne venez jamais préparer et n'avez pas d'argent pour votre dîner, Billy vous donnera l'argent pour votre dîner et pour payer votre note d'hôtel ou de motel. Vous le prenez maintenant et payez cela. Si vous pouvez rester, Billy vous rencontrera là derrière et prendra votre nom et celui de l'endroit où vous demeurez, et nous paierons votre dîner et votre note de motel, avec l'offrande d'amour qui était prélevée pour moi ce matin. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions au pied de Jésus.